Amis de la Reconquête, bonsoir. Je vous avais promis une surprise, et eh bien vous allez l'avoir, ce n'est pas une bien grande surprise d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois, mais c'est quand même une surprise agréable, puisque nous avons dans ce studio Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Bonsoir Monsieur Le Pen.
Bonsoir.
Ça fait 2 ans que vous n'êtes pas venu.
Oui,
eh bien,
un peu plus même, je crois.
Non, je crois que c'est vraiment 2 ans, je crois. Je me demande si c'est pas jour pour jour.
Ah bon?
Oui, vous voyez, ça vous a paru court?
Oui, le temps passe très vite.
Bien, alors, avant d'interroger Jean-Marie Le Pen, je vais demander aux auditeurs de participer à cette émission à leur manière, c'est-à-dire en envoyant tout de suite des questions. Des questions que vous souhaitez poser ou faire poser par mon truchement à Jean-Marie Le Pen. Et pour vous donner le temps de préparer ces questions et de les envoyer soit par fax au 46, c'est bien parce que c'est
46 51 21 82.
Ah oui, non, c'est là, d'accord, 46 51 21 82, ou par téléphone au 46 51 00 85. Par internet, non, on n'est pas encore, non, pas par internet, voilà. Donc avant de poser ces questions, pour vous laisser le temps de les formuler, je vais, avec l'autorisation de Jean-Marie Le Pen, me tourner vers 2 autres invités pour quelques minutes. Ces invités sont François-Marie Elgout, que vous connaissez, qui est l'auteur d'une histoire de la volonté de perversion des mœurs, de l'intelligence et des mœurs, et Monsieur Yves Guillaumard, qui est le président de la Cité Vivante. Alors la Cité Vivante est une association qui a été créée par François-Marie Elgout. Il y a combien de temps, François?
Elle a été créée le 4 décembre 1987. Et à ce moment-là, je m'occupais beaucoup de jeunes qui se trouvaient en difficulté. Et ma fille cadette, qui était la 6e, alors l'aube de ses 24 ans, a été tuée dans un accident. Et comme elle devait s'occuper de jeunes et les aider, ensuite je me suis lancé dans cette association et dans tous les livres, je suis devenu écrivain, ce qui n'était pas prévu, pour justement essayer de faire ce qu'elle aurait voulu faire, c'est-à-dire rappeler un peu ce qu'est notre pays, son amour, l'amour qu'on doit lui porter, et pourquoi on doit se battre pour lui et pour tous ces les gosses, notamment les jeunes en difficulté.
Et après avoir créé cette association, on peut dire cette association de combat, parce que vous avez mené un vrai combat sur le plan des mœurs et sur le plan de la défense des intelligences, et même de la défense de l'histoire et des fondamentaux, comme on dit aujourd'hui, de notre histoire, puisque vous avez publié récemment une réponse au livre de Villiers, Les deux patries.
Oui, avec mon livre France, notre seule patrie.
Il s'appelait France, notre seule patrie. Donc après avoir créé cette association, récemment, vous avez décidé de, en quelque sorte, de transmettre le flambeau à Yves Guillaumard.
Oui.
Pour quelle raison?
Pour une raison d'âge, tout simplement, étant donné que j'ai quand même 81 ans, que même s'il me reste quelques restes, puisque comme vous le savez, je pratique encore les arts martiaux.
Vous êtes
à mon âge,
un beau vieillard, on peut dire.
Et que je suis 4e dan. Bon, cela dit, il faut quand même pas être stupide. Et il était nécessaire, il y a plusieurs années, que j'ai un successeur. Et comme je le connaissais bien, car il a fait un travail magnifique à la présidence de la Fédération des associations familiales catholiques de Côte d'Armor, ça me paraissait bon. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que les livres qui ont servi de base à définir l'action de l'œuvre chrétienne de la Cité Vivante pour la lutte contre la perversion des mœurs sont les 3 livres pour lesquels vous m'avez déjà reçu à plusieurs reprises. Il s'agit de La marée noire de la pornographie, un fléau aux origines et aux conséquences mal connues, édité chez Chiré. Le livre Histoire de la volonté de perversion de l'intelligence et des mœurs du XVIe siècle à nos jours, pour lequel vous m'avez aussi reçu. Et le 3e livre qui sert à nos militants et dont va parler Yves Guillaumard, c'est le nouveau Vade-mecum, un guide juridique et pratique contre la pornographie et l'incitation à la perversion des mœurs. D'ailleurs, samedi prochain, de 14h30 à 18h, je serai à la librairie Duquesne pour dédicacer l'ensemble de mes livres. Donc Yves Guillaumard a pris ma suite, il fait un travail magnifique, pratique, et je crois que le mieux, Serge, c'est que vous ayez la gentillesse de le questionner.
Alors, la première question que je vais lui poser, bien sûr, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour faire mieux que François Elgout? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent et que vous allez faire vous?
Faire mieux, c'est difficile. Hein. Il m'a donné le flambeau, il m'a donné un outil extraordinaire. Cet outil, maintenant, il faut l'utiliser, et il faut que nous créions nous aussi un réseau. n'est-ce pas? Nous avons en face de nous des réseaux, vous connaissez, et nous sommes en train de quadriller le pays par l'œuvre chrétienne de la Cité Vivante en diffusant dans toutes les régions les raisons de notre combat. Vous avez parlé de combat tout à l'heure, n'est-ce pas? Et en ayant des points de chute et des personnes susceptibles de nous relayer, parce qu'il faut absolument faire prendre conscience à tout le monde de ce fléau terrible qu'est la pornographie, surtout que maintenant il est devenu évident que c'est l'avenue qui mène à la pédophilie. Donc c'est là, si vous voulez, que nous voulons intervenir le plus possible. Et nous avons maintenant, dans les différentes régions, des gens qui sont en place, qui nous écrivent. Je reçois à peu près 500 lettres par an, je réponds à 500 lettres par an, et nous conseillons des gens qui sont quelquefois un peu déboussolés, qui ne savent pas comment réagir, qui n'osent pas réagir. Je ne parle pas de ceux qui savent et qui ne veulent pas savoir, parce que ça existe aussi. Donc, nous avons entrepris en particulier une action, elle me semble fondamentale, c'est d'œuvrer avec les maires de tous les élus. Ce sont les maires, me semble-t-il, et c'est la vérité, qui sont les plus proches de leurs élus, qu'ils connaissent bien souvent dans les petites villes, dans les petits pays, et qui ne sont pas attachés, si vous voulez, à l'appareil d'un parti. Et en particulier pour la pornographie ou contre la pornographie, ce sont eux qui peuvent salubrifier, si j'ose employer cette expression, salubrifier leur commune. Nous voyons souvent dans des villes ou des villages des panneaux « telle ville, ville propre ». Bon, c'est pourri sur ces panneaux de 36-15 cum, 36-15 ceci, 36-15 cela, avec les images que vous pouvez imaginer. Donc, il faut aller les voir tout seul, en tête à tête. J'ai fait prendre, moi, 35 arrêtés dans mon département. J'ai vu 50 maires, donc j'ai eu des échecs. Mais, et une fois que l'arrêté est pris, il faut maintenant le faire respecter. Et j'avoue qu'on y arrive et qu'on y arrive de plus en plus. Et chaque semaine, j'obtiens des résultats. Voilà, si
vous... C'est pour l'affichage, mais enfin l'affichage, ça n'est qu'un des aspects de...
Ce n'est qu'un des aspects, mais disons que c'est un aspect mercantile, n'est-ce pas, qui rapporte gros à tous ces colleurs d'affiches, n'est-ce pas?
C'est porno trafiquant.
Hein, ce sont les pornos pratiquants, ce sont tous ces gens qui vivent de sexo-dollars.
Hein. Vous n'avez pas de contact avec des groupes, ça vous paraît étrange, mais question, mais comme ce groupe qu'on appelle les chiennes de garde, dont on n'entend pas beaucoup parler dans ce domaine, me semble-t-il, sont ces femmes qui prétendent imposer au besoin par force et violence de justice le respect de la femme. Mais je ne sais pas si elles sont beaucoup intervenues dans ce domaine.
Non
jamais.
Non, c'est curieux. Nous n'avons aucun contact avec elles.
Alors, donc vous nous dites que vous voulez créer un réseau d'associations.
Enfin,
vous avez commencé à créer un réseau.
Oui.
Comment ça fonctionne pratiquement?
Eh bien, c'est-à-dire que par des courriers, par des échanges de correspondances, nous décelons des personnes qui sont plus volontaristes que d'autres et qui veulent absolument réagir et faire quelque chose.
Alors ces personnes se chargent donc d'animer des cercles, en quelque sorte, de résistance à la pornographie.
De résistance, et puis surtout, je vous dis d'aller voir leur mère, d'aller voir le libraire du coin, d'aller voir des grandes surfaces. Et il se trouve qu'au dos de nos cartes d'adhérents, nous avons les deux seuls articles de loi qui permettent de contrer cette lèpre morale qu'est la pornographie. C'est l'article 224 et R624-2. Quand on va voir ces gens-là, on sort sa carte, je l'ai fait bien souvent, on la montre à ces gens-là, on demande le directeur. En général, ils verdissent ou ils bleuissent ou ils rougissent. Ils nous demandent s'ils peuvent en faire photocopie, on leur en dit tant que vous voulez. Et on leur dit, bah, écoutez, débarrassez-moi de ça, de vos vitrines, nous repassons dans 2 jours. Ça m'est arrivé bien des fois de repasser dans 2 jours, souvent ça y était plus. Si ça y est, alors là c'est pas compliqué, on les flanque en l'air. N'est-ce pas?
Ah oui, carrément. Hein?
Carrément. Mais oui.
De voie de fait.
Oui, enfin, on le fait gentiment, quoi.
Oui, hein?
On le met derrière, quoi. Mm. Voyez-vous, faut faire prendre conscience aux gens qui sentent bien ce malaise, qui sentent bien que c'est morbide, qui sentent bien que c'est mauvais, mais qui n'osent pas. Les gens, il faut le dire, ils sont abrutis maintenant, enfin, excusez l'expression, ils sont anesthésiés pour la plupart, n'est-ce pas? Ou ils veulent pas savoir. Combien m'ont dit, oh, ces fils, on les voit pas, puis c'est pas notre âge, puis qu'est-ce que vous prenez tous, c'est le, pas le progrès, mais enfin si, dans une certaine mesure, c'est l'évolution des mœurs.
Oui.
Bon, et nous faisons ça, je dois le dire, dans le respect d'une politique de lutte contre la culture de mort. Il est bien évident que nous sommes liés dans cette culture de vie qui a pour cible la lutte contre la vie, contre l'avortement, pour l'appeler par son nom. N'est-ce pas?
Oui, on n'a pas trouvé d'autre nom, on appelle ça l'IVG. J'ai remarqué il ne faut plus parler d'euthanasie, il faut parler de fin de vie.
Accompagnement de fin de vie, oui, c'est
l'AFV.
Ça. L'AFV. Il y a toute une terminologie maintenant.
L'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse.
L'accompagnement de fin de vie.
Ça donne une heure. Ça fait
simplement, il vous accompagne jusqu'à la porte, il ne passe pas la porte avec vous.
Ça fait bien, quoi, oui, j'ai été.
Monsieur Guillaume, où est-ce qu'on peut s'adresser si on
Sommes délocalisés. Quand François Algout m'a transmis ça, j'ai dit je veux bien, mais moi je suis breton, j'habite la Bretagne, et on peut nous toucher.
Décidément, les Bretons, vous faites nombre là ce soir.
Oui, je suis breton par ma mère.
Donc, nous avons.
Ils sont partout.
Un secrétariat national. Nous ne travaillons qu'avec des bénévoles. On a eu une chance extraordinaire de trouver des femmes qui se sont mises à notre disposition totalement bénévolement, sans ça on n'existerait pas. Et nous sommes donc en Bretagne et on peut nous toucher notre secrétariat national. C'est le, je vous donne les coordonnées, au 22 150 à Pleuc-sur-Lier. Je vais vous épeler parce que c'est un peu compliqué. P-L-O-E-U-C sur et plus loin L-I-E accent aigu. Pleuc-sur-Lier. Et nous avons un fax, le 02 96 78 30 43. Toutes les lettres reçoivent réponse. Tous les fax reçoivent réponse. Et nous sommes à la disposition de tous nos amis pour les aider à rédiger même des lettres quand ils ont quelques difficultés, quand ils éprouvent quelques malaises à trouver des formules adéquates.
Merci, monsieur Guillaume.
Ce qu'on peut dire, c'est que samedi, à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, j'aurai avec moi des exemplaires du bulletin de l'association de la Cité Vivante. Parce que son bulletin, La Cité en Marche trimestrielle, touche quand même 7500 personnes tous les trimestres. Et nous en aurons un exemplaire, donc, à notre disposition.
7500 personnes. C'est plus que le Libre Journal, je peux vous dire. C'est l'abonnement est peut-être moins cher.
Et celui de décembre est tiré.
En tout cas, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, car je vais donner deux chiffres pour terminer. Quand on voit au point de vue perversion des mœurs, que de 1965 à 1975 maintenant, les drogués dépendants sont passés de 3 000 à 300 000 en 10 ans. D'autre part, que les suicides actuellement sont de 12 000, que les tentatives de suicide en un an sont de 200 000, c'est-à-dire le tiers d'une génération.
En plus, ils sont maladroits.
Ah oui. Et que actuellement, le plus grand nombre de suicides, c'est dans les jeunes de 18 à 25 ans. Donc, tout ceci dénonce une pourriture extraordinaire. On doit lutter. Et il ne suffit pas de gémir toujours et de se dire « Ah, ça va mal, c'est ça ». Il faut s'associer. La Cité Vivante fait un travail magnifique. Elle a un très bon président actif. Eh bien, bougez, hein, et que Dieu vous garde.
Je vous dirai une chose, si vous voulez, pour terminer. Nous voulons transmettre à nos enfants la notion de discerner le bien du mal, n'est-ce pas?
C'est la base de l'éducation, ça.
C'est le plus grand service qu'on peut leur rendre en ce moment.
Merci beaucoup, Monsieur Guérin. Merci, François-Marie Legout. On va se revoir au long de l'année 2002, parce que c'est le cinquantenaire de la mort de Maurras, et on va consacrer plusieurs émissions à ce personnage passionnant.
On va faire beaucoup de choses, et avec donc Jacques Maurras, neveu et fils adoptif de Maurras, donc je serai ravi de travailler avec vous, comme avec bien des directeurs d'émission. Serge, encore merci.
Merci, François-Marie. Merci, Jean-Marie Le Pen, d'avoir accepté de céder
avec grand
quelques
plaisir.
Minutes en début d'émission à nos amis. Vous avez un commentaire à faire sur l'initiative de ces messieurs?
Moi, je me placerai, non pas d'un point de vue moral ou éthique, comme nos amis, en reconnaissant l'extrême importance de leur activité et de leur démarche, mais même au point de vue sociologique, je dirais qu'il est évident que la pornographie attente au système de transmission de la vie, au système psychologique de transmission de la vie, et qu'il est probablement responsable en partie, elle est responsable en partie de l'abaissement de notre natalité, pas exclusivement, mais qu'il est bien évident que la révélation des perversions étendue à l'ensemble de la population, y compris très jeune, ne peut conduire les gens qu'à être blasés, tout à fait jeunes, et à se détourner, dans le fond, de l'amour dans sa complexion totale, c'est-à-dire pas seulement intellectuelle ou sentimentale, mais aussi physique. Il y a là quelque chose qui attente véritablement non seulement à la dignité des êtres, mais même aux réactions biologiques fondamentales.
Je regardais hier ou avant-hier une émission à la télévision où on interrogeait des enseignants et qui avaient fait des sondages auprès de leurs élèves dans des cités, hein, dans des zones, enfin des cités de la banlieue occupée. Et ils expliquaient que quand ils demandaient à leurs élèves quel film ils avaient vu en vue, quel film ils regardaient en vidéo, les seuls films que ces jeunes voyaient à la télévision, c'était des films de violence, kung-fu, etc., et des films pornographiques. Et ces enseignants, qui étaient naturellement de gauche, parce qu'autrement c'est très difficile d'être enseignant si on n'est pas de gauche, dans les banlieues en tout cas, expliquaient que c'était probablement une des causes premières de l'extraordinaire progression et de l'extraordinaire développement de la violence, et notamment des violences sexuelles. Parce que par le spectacle de ces films, ces jeunes acquièrent une espèce de mépris de la femme.
Et je crois même de la drogue, parce que, n'est-ce pas, l'amour est une source de sensations légitimes, mais la pornographie peut incliner à un excès dans ce domaine. Mais très vite, c'est un peu comme un éventail qu'on veut ouvrir trop grand, qui se referme d'un seul coup, et le désir fait partie de l'amour, c'est bien évident. Or, la pornographie tue rapidement le désir. La preuve, c'est qu'on est obligé d'avoir recours à des images de plus en plus suggestives, de plus en plus perverses, pour provoquer justement ce qui ne se provoque plus naturellement et normalement. Et sans sens, c'est véritablement un détournement de la nature, et ça a des conséquences sur la vie nationale elle-même, pas seulement sur la vie spirituelle et individuelle en quelque sorte, mais sur la vie de la société.
Oui, ce sont des conséquences dramatiques de tout ça.
Par exemple.
Entre autres.
Merci, monsieur. Je rappelle encore.
On bascule dans la drogue.
Quand
l'amour, même dans ses perversions, n'arrive plus à vous émouvoir, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste d'entrer dans l'enfer de la drogue.
Et on le voit à travers les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Ce que vous dites est très juste, président.
J'ai un message pour monsieur.
Un message.
Il y a un site internet Ta Santé, cofinancé par le secrétariat d'État à la Santé et la Caisse d'assurance maladie. Sous couvert de santé pour les enfants, c'est un véritable message d'incitation à la dépôt. À ta débauche, êtes-vous au courant?
Ah non, il n'est pas au courant, mais maintenant, voilà, il l'est. Vous êtes au courant. Donc vous êtes bien président.
Je l'ai cité d'ailleurs.
François-Marie Algout, qui n'est plus président, n'était pas au courant.
Je suis au courant. Je l'ai cité et j'ai mis en garde.
Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à une actualité non pas plus brûlante, mais plus immédiate et plus particulière, c'est l'actualité politique, nationale et internationale, dont on va débattre avec Jean-Marie Le Pen dès que nos amis auront quitté le studio. Et voilà, ça y est. Alors, mais écoutez, Jean-Marie Le Pen, un auditeur obéissant à mon invitation a envoyé une question, et je vous la pose comme elle arrive. N'est-il pas étrange d'entendre et de voir Jean-Marie Le Pen dans tous les médias, médias tenus par la gauche, alors ça, je ne sais pas que Radio Cantosie était tenue par la gauche, mais enfin, on en apprend tous les jours. Ces médias n'ont-ils pas décidé que le représentant de l'extrême droite, entre guillemets, devait s'exprimer, car il est moins dangereux, notamment pour la multiconfessionnalité de la France, etc. Alors, la question que moi je voulais vous poser, c'est, on vous a entendu hier sur TF1, avant-hier chez El Kabach, aujourd'hui sur Radio Cantosi, mais là, je dois dire que c'était quelque chose, ça n'entre pas dans un plan média, c'était prévu depuis un certain temps déjà. Comment expliquez-vous, justement, que d'un seul coup, on se décide à vous donner la parole sur des médias où, en général, vous n'êtes pas reçu très
couramment? Oui, il y a là tout de même une apparence. En fait, l'émission sur les 7 minutes auquel je suis invité une fois par an à TF1 était programmé dans la période des Twin Towers, n'est-ce pas, de l'attentat de New York, et on a donc déplacé cette invitation de 2 mois. Et l'invitation d'El Kabash, El Kabash est un des journalistes qui rompt avec la consigne d'omerta que je subis, ainsi d'ailleurs que la droite nationale depuis au moins 18 mois. Et j'ai eu l'occasion de dire, je ne sais pas si je l'ai dit ici, où je suis invité de temps en temps, que le rapport officiel du CSA, que préside l'ancien maire de Toulouse, Monsieur Baudis, reconnaît que Le Pen et le Front National ont eu 0,2% du temps d'antenne pendant les 18 derniers mois. Et évidemment, cela est assez choquant. Alors, quand dans un silence total, on me donne quelques minutes d'antenne, évidemment, ça apparaît comme un cadeau extraordinaire. Et pourtant, nous n'avons pas, dans ce domaine, notre dû, et je dirais le dû des millions de citoyens qui pensent comme nous et qui, n'ayant déjà pas de représentation parlementaire, n'ont pratiquement aucun moyen ou pratiquement aucun moyen d'expression médiatique. Et c'est évidemment là une violation fondamentale des règles morales de la démocratie. C'est bien évident que pour qu'on puisse interroger le peuple sur ses volontés, faut-il encore qu'ils soient informés, qu'il ait des éléments contradictoirement exposés pour pouvoir juger. C'est ce qu'il n'a pas. Je ne sais pas si le fait d'être invité 3 fois, dont 1 fois par Radio Courtoisie, dans les 18 mois, derniers mois, dans cette semaine, annonce une embellie. Peut-être d'ailleurs cette embellie est-elle provoquée par des calculs stratégiques ou tactiques de nos adversaires. Il n'y aurait à cela rien d'étonnant. Bien évidemment, le problème, c'est que pour nous, il est très important que les idées que nous défendons soient connues du public, que les critiques que nous faisons, que les propositions que nous faisons leur permettent de se faire une opinion et les détournent de continuer à voter pour les gens pour lesquels jusqu'à présent en majorité ils ont voté et qui sont responsables de la politique désastreuse de la France.
Alors on va parler des grandes questions internationales, mais avant je voudrais, parce que je sais que tout le monde va vous poser, on vous pose la question partout, tout le monde se la pose, et donc réglons-la tout de suite. Je voudrais qu'on parle du détail de la situation politique actuelle en France et de la situation électorale ou préélectorale, et je voudrais vous demander si vous pouvez nous dire où vous en êtes, si vous d'ailleurs vous le savez vous-même, parce que la chose évolue tout le temps, de la question très importante et anormalement importante d'ailleurs des signatures.
Oui, bien, nous avons mis en place le dispositif nécessaire et je pense suffisant pour arriver à faire cette collecte qui est difficile. Elle est difficile pour beaucoup de raisons. C'est qu'une grande partie des maires sont affiliés, n'est-ce pas, sont affiliés à des formations politiques, qu'ils sont soumis aux pressions du pouvoir, c'est-à-dire des avantages que celui-ci peut offrir ou promettre. Ils attendent bien souvent des subventions, des conseils généraux ou des conseils régionaux, et plus généralement, ils partagent le sentiment de prudence, qui est la conséquence de la censure du politiquement correct. Mais malgré cela, il y a quand même près de 40 000 élus en France, et un certain nombre sont socialistes, communistes, RPR, UDF, etc. Cela donne à tort, d'ailleurs, leur signature à des candidats, et pour les autres, il reste 7, 8, 9, 10 candidats pour se partager ce qui reste. Alors nous avons, nous, mis depuis déjà 6 mois nos équipes au travail et qui pratiquent la démarche personnelle, c'est-à-dire qu'ils vont visiter les maires un par un. Et je crois que ce que nous avons comme résultat à présent, à 6 mois des élections, nous permet d'envisager avec confiance le passage de ce pont aux ânes. Mais nous souhaitons en avoir assez nettement plus que le chiffre retenu, parce que nous avons le souvenir de 1981, où nous étions convaincus que nous avions les signatures nécessaires et où la consigne donnée par Chirac et par Giscard d'Estaing à l'époque nous priva d'un certain nombre de signatures, et aussi la concurrence que nous avait fait le candidat du PFN, qui n'en ayant peut-être recueilli que 60, ces 60 que nous n'avions pas eues nous-mêmes, bien sûr, et qui nous ont manqué, et qui sans doute ont été responsables de l'élection de François Mitterrand. Alors, on peut s'interroger longuement sur le fait de savoir si ça aurait été moins mal si ça avait été Giscard d'Estaing. Certains le penseront, d'autres penseront le contraire. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a eu un résultat, puisque j'avais donné au deuxième tour la consigne de voter Jeanne d'Arc, et ça n'avait pas permis, évidemment, de sauver Giscard, qui avait été, vous vous en souvenez, poignardé en pleine campagne électorale par son complice Chirac. Ce sont des choses qui se produisent souvent.
Oui, surtout par venant de lui. Je voudrais quand même rappeler en deux mots de quoi il s'agit, parce que je pense que beaucoup de jeunes auditeurs doivent être en train de se demander de quoi il parle. Donc il s'agit de rappeler que pour être candidat à la présidence de la République, il faut pouvoir exciper de la signature de 500 élus, soit maire, soit maire adjoint.
Non,
sénateur, député ou maire.
Ou député européen.
Européen.
Conseiller général.
Qui dit, je considère que cette personne est digne d'être candidat à la présidence de la République. Il y a 40 000 personnes en France qui peuvent donner leur signature. Il faut 500 signatures pour pouvoir être candidat, ce qui, dans toute hypothèse, limite la possibilité de candidature à la présidentielle à 80 personnes.
Oui. Il faut dire que c'est aberrant. C'est une aberration, puisque le système d'élection du président de la République au suffrage universel était évidemment un système très ouvert. Et à travers cette formalité, on a rétabli un suffrage censitaire, en fait, un suffrage restreint. Alors au départ, le général de Gaulle avait, d'ailleurs il n'était pas lui-même très partisan de cette formule, mais on avait mis 100 signatures. En disant que ça écarterait les farfelus. Je suis pas du tout sûr que ça les aurait écartés.
On a bien vu d'ailleurs par la suite.
À mon avis, quelques farfelus auraient beaucoup plus de chance que des gens sérieux d'avoir des signatures. Mais ce chiffre a été porté à 500. Par une initiative de M. Le Canuet, et Suivez mon regard, dont le but était bien évidemment d'empêcher que les candidats qui n'appartenaient pas à la bande des quatre et qui ne pouvaient pas compter sur une implantation municipale très forte, eh bien, soient écartés. Eh bien, dans les deux derniers scrutins, en tous les cas, ça n'a pas été le cas. Nous avons toujours eu le nombre suffisant, mais c'est difficile et c'est de plus en plus difficile. Vous avez pu voir d'ailleurs que M. et qui n'arrive pas à se faire pardonner d'avoir été un étudiant d'extrême droite, n'est-ce pas, et M. Perben ont déclaré publiquement qu'ils regarderaient avec attention la liste des maires qui avaient signé.
Ce qui s'appelle du chantage.
Du chantage, mais je me demande d'ailleurs dans quelle mesure ça ne tombe pas sous le coup de la loi, puisqu'en effet, ce n'est pas une référence politique qu'il faut considérer, mais simplement c'est une condition de considération, en quelque sorte. Ça veut dire, eh bien, ce monsieur n'est pas un farfelu, et moi je pense qu'il peut ou qu'il doit participer au grand débat national dont va dépendre l'avenir de la France. Et c'est ça le vrai problème.
Oui, il faut expliquer aussi que vous venez de le dire, mais je crois qu'il faut bien préciser que chaque signataire potentiel ne dispose que d'une signature.
Absolument.
Ce qui en soi est idiot, parce qu'il pourrait très bien dire, mais je considère que Monsieur X, Monsieur Y et Monsieur Z sont parfaitement dignes de participer à la course et donner 3 signatures. Non, on lui demande un choix, et d'autre part, ce choix est public, ce qui soumet naturellement le maire à toutes les pressions, parce qu'évidemment, son chef de parti va venir le voir en disant, écoute,
le préfet, si vous
voulez des aides, ou si tu veux être investi la prochaine fois, tu vas pas donner ta signature. Bon, voilà. Donc c'est purement et simplement une manœuvre. Ce qui m'étonne, c'est que le Conseil constitutionnel ait pu laisser passer ça.
Oui, il a laissé passer un certain nombre d'autres choses déjà. Mais c'est
parce
sûr.
Parce que c'est pas Dumas qui était président du Conseil constitutionnel à l'époque.
Peut-être.
Donc vous pouvez se dire que.
C'est sûr que c'est assez scandaleux. Et moi, je me proposais peut-être de saisir le procureur de la République pour qu'il rappelle un certain nombre d'hommes politiques à la dignité de leur fonction et au respect de la loi.
Vaste programme. Bien, alors donc maintenant on sait à quoi s'en tenir sur ces questions de signature. Je vous propose de faire un tour de l'actualité. Ça va être, non pas vite fait, mais ça va être assez facile parce que ça tourne toujours autour des mêmes sujets. L'Afghanistan, le terrorisme, les accidents à 90%, qui est une nouvelle spécialité maintenant. Toulouse était un accident à 90%, comme vous le savez. L'avion de Queen est un accident à 90%. C'est à se demander si le procureur de Toulouse n'est pas parti momentanément servir d'attorney général à New York, je ne sais pas. Sur l'affaire d'Afghanistan, est-ce que vous avez envie de nous livrer votre analyse ?
Écoutez, moi j'ai toujours pour préoccupation l'intérêt national français. Alors je sais que dans des circonstances surtout médiatiquement portées à l'incandescence, les gens ont tendance à se laisser guider par des sentiments de compassion, de sympathie, par des entraînements collectifs. Je rappelle que la politique étrangère n'est pas un jeu et que nous devons toujours avoir à l'esprit, un peu comme on dit quelquefois, vous savez, dans le centre de Paris, là, est-ce que c'est bon pour nous autres, n'est-ce pas ? Ça n'exclut pas la solidarité avec ses alliés, à condition que celle-ci soit réciproque. Et notre responsabilité en matière internationale pourrait être engagée aux côtés de nos alliés si ceux-ci nous avaient demandé notre avis avant et tenaient compte de ce qu'on leur dit. En fait, surtout depuis que les nations européennes ont choisi dans leurs élites au moins de se dissoudre dans l'Europe, il n'y a plus que des réflexes de servilité et c'est à qui apparaîtra comme le meilleur allié, le plus fidèle serviteur de la principale puissance mondiale. C'est ainsi que Jacques Chirac avait fait cette déclaration aberrante immédiatement après l'attentat de New York, où que où qu'aille et quoi que fassent les États-Unis d'Amérique, la France sera derrière eux. Ce qui était évidemment une stupidité.
Il est un peu revenu
là-dessus, il est même revenu assez largement sur cette sottise et il a pris une attitude qui était plus convenable. Mais l'Afghanistan, je voudrais bien d'abord savoir quels sont les buts de guerre des États-Unis.
Je suppose que vous en avez une idée quand vous dites
ça. La présence de l'Angleterre, la présence vibrionnante de l'Angleterre me laisse toujours supposer que c'est les odeurs de pétrole qui les rendent fous d'habitude. Alors, pour que M. Blair court le monde entier et pour que l'armée britannique ou la marine britannique soit présente partout où il y a les Américains, c'est qu'il doit y avoir des intérêts communs. Je pense que les pétroles des Caucases, les pétroles russes, on peut dire, doivent être pris en considération et que il faut reconnaître que l'Afghanistan est un château fort au centre, presque au centre de l'Asie, qui commande, qui est d'ailleurs frontalier de plusieurs pays, dont la Chine, n'est-ce pas, mais aussi l'Iran, mais aussi le Pakistan, et aussi les républiques musulmanes ex-soviétiques. Bon, je voudrais être sûr que ce soit bien Ben Laden que l'on chasse. Et puis, vous savez, quand on n'est pas capable d'attraper Colonna en Corse, on ne se propose pas d'aller chasser le Ben Laden en Afghanistan. Moi, je suis partisan de balayer notre maison, de balayer devant notre porte. Et je trouve, je le redis, que la France ne s'engage pas du tout dans cette opération d'Afghanistan, qui d'ailleurs va peut-être receler quelques surprises. Aujourd'hui, tout semble réglé. Je ne suis pas sûr que, justement, le mécanisme du piège ne soit pas en train de se mettre en place.
Et comme Breton, je sais que vous êtes sensible aux signes, aux intersignes. Est-ce que vous n'avez pas été frappé par le fait que il y a donc le 11 septembre, dans l'après-midi, alors française, deux tours ont été abattues à New York et que avant-hier, le 12 novembre, à la même heure pratiquement, c'est sur le quartier de Queens, c'est-à-dire le quartier de la Reine, que l'avion est tombé à New York. Ça ressemble beaucoup à une partie d'échecs. Si on pense que M. Chirac se déplace sur l'échiquier du monde comme un cavalier, c'est-à-dire à peu près en allant un peu partout d'une façon zigzagante, et que Blair se comporte comme un fou, on a vraiment l'impression que c'est une
gigue. Je reconnais bien là votre goût pour l'ésotérisme.
Je trouve ça frappant. Voilà. Les tours et la reine.
Il y a peut-être des raisons mystérieuses et des liens mystérieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut être frappé par la coïncidence, en tout cas. Et surtout, l'affirmation péremptoire est avant toute preuve, comme à Toulouse, qu'en toute hypothèse, il s'agit très probablement d'un accident. Tant mieux si c'est un accident, si on peut dire, mais je ne suis pas sûr que cela doive nous rassurer. Ça n'est pas parce que le terrorisme n'a pas frappé qu'il ne frappera pas, mais surtout, moi j'insiste sur le fait que nous devons, nous, regarder quels sont les dangers qui nous menacent, nous. Alors, or, le terrorisme international, pourquoi d'ailleurs dénonce-t-on le terrorisme international? Est-ce que le terrorisme national aurait, lui, droit à quelque indulgence? Nous sommes contre tous les terrorismes, y compris celui qui, auquel on s'adonne dans notre propre pays. Mais le vrai danger pour nous, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi, et d'abord, l'immigration. Et s'il y a un danger de terrorisme dans notre pays, il est lié très probablement, très sûrement même, au nombre d'étrangers qui résident chez nous sans aucun contrôle et sans, il faut bien le dire, que l'État soit en mesure de résister à une quelconque offensive, ni par sa police, ni par sa justice, ni par son armée. Nous n'avons pas les moyens d'assumer la sécurité de notre pays dans le cadre d'une offensive concertée de grande envergure, et je crois que c'est à cela que le pouvoir doit s'atteler dès maintenant pour doter la France des moyens de se défendre, car l'indépendance est la condition de la survie.
Quand vous dites il faudrait observer, bon, le communisme international est une chose, le communisme national en France c'est aussi, le vous terrorisme. L'avez dit, le terrorisme, quel beau lapsus, le terrorisme est aussi une forme de, le terrorisme national est aussi d'une certaine manière un terrorisme international, parce que la plupart du temps il est pratiqué par des gens qui sont des nationaux de date fraîche.
Oui, mais dans le même temps où on condamne le terrorisme dans des termes extrêmement sévères, on continue tout de même de parler avec M. Talamoni,
oui, voilà,
et on continue de mettre en œuvre un processus qui est né de l'action des terroristes en Corse.
Enfin, ça, c'est un peu la tradition en France. Parce que quand les gens tant qu'ils n'ont pas gagné, on les appelle des terroristes, et après, on les appelle des résistants. C'est une vieille tradition. Je voudrais revenir sur Toulouse. Est-ce que vous avez considéré cette affaire de Toulouse avec attention? Je veux dire, vous vous êtes intéressé profondeur. Est-ce que vous vous êtes fait une idée de... Est-ce que vous croyez, vous, à la thèse de l'attentat à 99%? De l'accident à 99%?
Tous les amis que nous avons à Toulouse, dont un certain nombre d'ingénieurs, en particulier même de professeurs d'aéronautique, tous sont unanimes pour déclarer que, à leur avis, ça ne peut pas être un accident. Alors, est-ce que c'est une action extérieure? Est-ce que c'est un sabotage de venant du personnel de l'usine en question? Mais les gens ont été ont eu leur attention attirée par le fait que le procureur voulait absolument faire croire que ça n'était pas un attentat, oui. Alors que il y avait en tous les cas de grandes vraisemblances pour que ce soit le cas. Alors je ne sais pas si on choisira de faire payer, c'est pas la première fois qu'on demanderait à Total, Fina, Elf, n'est-ce pas, de payer les erreurs de la République.
Oui, c'est un peu c'est la tirelire.
Mais puisque vous parlez de Toulouse, il y a une chose qui m'a frappé aussi. Nous étions très, notre attention était attirée, en particulier pendant la campagne électorale, sur une force nouvelle qui avait pris naissance dans cette commune, dans cette ville, qui étaient les motivés. Mmh. Alors les motivés, c'était une espèce de formation politique indépendante, novatrice, et qui allait nous montrer ce qu'elle allait nous montrer. Elle ne nous montre pas, en tous les cas, un puissant sentiment de solidarité dans cette affaire de Toulouse, car à ma connaissance, on n'a pas entendu parler d'eux.
Ils ne sont peut-être pas très motivés par ça.
Ils sont probablement pas motivés par la reconstruction. Et quant à la reconstruction...
Ils font de la politique probablement pour échapper au sort qui les guette, qui était d'être manœuvre balai dans une entreprise de construction. Alors vous n'allez pas les renvoyer à...
C'est bien possible, mais on peut s'étonner tout de même que dans un pays qui se targue d'être le quatrième puissance mondiale, au bout de deux mois, n'est-ce pas, on n'est pas encore réussi à remettre les fenêtres dans les bâtiments qui ont été partiellement endommagés.
En réalité,
il y a un aveu d'impuissance, et on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se produirait si plusieurs villes étaient attaquées en même temps, soit par l'émeute, soit par des attaques extérieures? On s'aperçoit que nous ne réagissons pas du tout autre chose. Il y a une chose qui me paraît extraordinaire. Vous savez que j'avais été en 1952 en Hollande lors des inondations avec un groupe de volontaires. Et ce groupe de volontaires avait été, après mon départ en Indochine, d'ailleurs aussi, je crois, en Italie, sur un tremblement de terre. Il existe des tas d'ONG, des tas d'organisations, les États sont puissants, je trouve extraordinaire, qu'il n'existe pas une unité importante capable, dans les heures qui suivent le drame, de se poster immédiatement en situation de rendre le service salvateur indispensable. Y compris, bon, je ne suis pas indifférent à ce qui s'est passé en Algérie. L'Algérie a été française pendant 130 ans, et on n'oublie pas cela. Et puis, quand ce sont des misérables qui sont les victimes des événements et de la nature, bon, on a aussi... Pourquoi pas? On peut avoir de la compassion, pas seulement pour les gens riches et puissants. On peut en avoir aussi pour les gens pauvres et misérables. Bon, eh bien, on ne soit pas en mesure de faire utilement quoi que ce soit pour sauver. Alors on va mettre en route des opérations qui sans doute permettront à des sauveteurs d'arriver dans un mois, dans deux mois, tout cela est tout à fait, n'est pas du tout à la hauteur des risques de la société d'aujourd'hui.
Moi je trouve que l'histoire de Toulouse est une histoire capitale et capitole même. Parce que si on prend d'abord l'extraordinaire force du mensonge immédiat, hein, c'est-à-dire qu'on mobilise immédiatement un procureur de la République et un préfet pour dire quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un accident, alors qu'ils n'en savent positivement rien.
Bien bon. Sûr.
Et en plus, ils disent une bêtise, puisque l'accident à 99%, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Rationnellement, ça n'a pas de sens. Bon. Deuxièmement, il est démontré, il y a eu plusieurs émissions sur Radio Courtoisie, notamment dans l'émission de Pichon, qui a reçu un sismologue, enfin un spécialiste de ces questions, qui a démontré d'une façon absolument positive, objective, scientifique et définitive, qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident. Que c'était forcément un chapelet d'explosion d'abord, qui avait provoqué ensuite une onde, une énorme explosion. Donc un chapelet d'explosion, ça veut dire qu'on a déposé des explosifs dans une masse explosive elle-même, comme pour provoquer en réalité, avec un système de détonateur, comme une espèce de bombe atomique qui explose avec un détonateur à l'intérieur. Bon, tout ça, tous les spécialistes le savent. Que ce soit, comme vous le disiez, des spécialistes de l'aéronautique, des spécialistes des explosifs, des spécialistes des engrais, des spécialistes de la sismologie, tout le monde le sait dans ce pays, sauf l'opinion publique, les politiques le savent, sauf l'opinion publique qui est tenue volontairement d'une façon systématique dans l'ignorance de la vérité. C'est quand même extraordinaire que dans ce pays, en 2001, on arrive à mentir à la population avec la complicité de tout le système, c'est-à-dire de la police, de la justice, des médias.
Oui, mais c'est pas le seul sujet sur lequel on ment. On ment sur beaucoup d'autres sujets, et en particulier tous ceux qui pourraient mobiliser l'opinion publique et la faire changer d'avis sur le plan politique. Ben c'est le cas, par exemple, de l'insécurité. Le ministère de l'Intérieur, en admettant qu'il y a une progression constante des faits criminels et délictuels, les chiffres à 4 300 000. Dans le même temps, l'INSEE, qui est l'Institut National de la Statistique, chiffre, lui, à 16 700 000 le nombre de crimes et de délits en France. Et ceci parce que il y a une politique délibérée pour masquer la vérité à tous les échelons de la police. Les policiers sont dissuadés. D'abord, dissuadent les gens de porter plainte. Ensuite, participent à la dilution de ces plaintes. Ensuite, le parquet classe l'immense majorité des plaintes, ce qui fait que, à la limite, eh bien, il n'y a plus de rapport entre la réalité des faits et l'appréhension que peuvent en avoir les citoyens qui pourraient, encore une fois, changer d'avis. Et il y a là un intérêt commun des partis politiques de botter en touche systématiquement, de renvoyer la réalité, que ce soit celle des banlieues, que ce soit celle de l'évolution de l'agriculture et de la pêche qui vont être sacrifiées, qui sont sacrifiées à Dao et dans toutes les négociations internationales, que ce soit le mouvement de désindustrialisation de la France, que ce soit l'état absolument catastrophique de notre capacité d'intelligence, de recherche, d'adéquation aux besoins de l'économie française, eh bien, il y a un décor qui est dressé avec la complicité de tous les hommes politiques et des médias. Tout va bien. Ça ne va en tous les cas pas si mal que ça. Et ceux qui dénoncent, qui disent la vérité, sont montrés du doigt comme des provocateurs et des agitateurs. Et quand la France va se réveiller devant la réalité des faits, ils seront épouvantés. Et j'espère que ça ne va pas les stupéfier au sens littéral du terme, c'est-à-dire les paralyser.
Ben, c'est un peu ce qu'on peut redouter quand même. Pour en revenir à Toulouse, comme modèle, comme symbole, comme cas d'école, on peut constater que à Toulouse, on a été incapable de prévenir, on a été incapable de dire la vérité, et on est incapable, comme vous l'avez fait remarquer, de guérir ou de réparer. Car c'est vrai que c'est totalement terrifiant de penser que dans une ville qui n'est quand même pas la première ville de France, deux mois après le drame, on n'a toujours pas porté remède à la tragédie individuelle des habitants, ce qui veut dire effectivement que si ça se passait dans plusieurs villes, comme ça s'est passé par exemple pendant la guerre, si les villes étaient bombardées, ça, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que aujourd'hui, pratiquement il n'y a pas une journée où à la télévision ou dans les journaux, on nous explique que Pétain était une épouvantable crapule collaborationniste et que nous, si on avait été là, alors les Allemands auraient vu ce qu'ils auraient vu. Hein, nous, la résistance, c'était une demi-heure après le 10 mai. On était là et puis jamais on aurait signé d'armistice ni rien. Seulement ces gens-là, quand ils reçoivent une enveloppe...
Les vrais résistants ne disent pas ça. Ouais.
Ah ben non, les vrais,
parce
non.
Parce qu'eux savent la vérité.
Les vrais disent plus grand-chose d'ailleurs parce qu'en général, ils sont morts. Mais... on vous dit ça, et là-dessus, ces gens-là, ayant fait leur beau discours, reçoivent une enveloppe d'où ils tombent 1 mg de farine, ils tombent en syncope, ils appellent les pompiers, on envoie les pompiers, la police, la protection civile, l'armée, on bloque le quartier, et tout le monde est pétrifié d'horreur pendant 3 jours, parce qu'il y a 1 g de farine qui est tombé d'une enveloppe. Alors, s'ils avaient vu arriver 10 casques à pointe, je pense qu'ils se seraient tous jetés par les fenêtres de terreur, évidemment.
Oui, mais c'est sûr que quand on a le souvenir des conflits, en particulier de la Deuxième Guerre mondiale, on relativise tout à fait les menaces actuelles. Enfin, vous parlez de la farine, moi j'en ai reçu de la farine, mais vous savez que vous êtes obligé d'avertir la gendarmerie, parce que si vous ne le faites pas, et si par hasard c'était quelque chose d'autre, eh bien vous portez la responsabilité d'avoir contaminé toutes les gens qui étaient chez vous, les postiers, etc. Alors donc, tant mieux, c'est de la farine, mais je dois dire que moi, ça se passait à la Trinité, alors on ne m'a pas tout à fait obligé à faire...
C'était de la farine de sarrasin.
Je ne sais pas ce que c'était, peut-être de sarrasin, oui. Mais je sais qu'au paquebot, ils ont été mis tout nus, lavés...
Mais vous avez dû en recevoir de quoi faire des crêpes au paquebot, non?
Ils en ont reçu une. Maintenant, on ouvre ça avec beaucoup de précautions. Il y a même quelqu'un qui fabrique un appareil pour ouvrir les lettres sans danger. Vous voyez comme
vous
quoi...
Vous savez qu'il suffit de la repasser avec un fer à repasser à vapeur.
Mais il faut le savoir, c'est ça.
Il faut repasser tout le coin. Enfin,
ce qui est vrai, c'est que ça a au moins un mérite. Car le drame joue le rôle dans la vie civique de la douleur dans la vie physiologique. et il contribue à réveiller l'attention des gens. Malheureusement, souvent, ça dure quelques jours et puis après, on oublie. Mais ces accidents, ces attentats terroristes devraient justement mobiliser l'attention des Français et l'esprit public sur le fait qu'ils ne sont pas protégés, qu'il n'y a pas une organisation, qu'il n'y a pas une volonté de s'opposer à ce genre d'activité. Et je vais vous donner un exemple qui va vous paraître aberrant. Vous savez que quand ce sont les patriotes qui sont victimes d'attentats, on ne trouve jamais les coupables. Mais une fois, il y a eu une exception, à Marseille, on a arrêté les trois anarchistes qui faisaient sauter pendant plusieurs années les immeubles du Front National et qui avaient mis même une bombe chez Maurice Gros, notre secrétaire départemental, au risque de le tuer avec sa famille. Ils ont été arrêtés. La présidente du syndicat de la magistrature a demandé à être entendue comme témoin de moralité. Autrement dit, pour pouvoir dire que des gens qui mettaient des bombes dans les immeubles du Front National ne pouvaient pas être tout à fait mauvais. Alors quand on en est à ce stade de désinformation et de subversion, la présidente d'un syndicat qui représente 30% des magistrats français, vous comprenez mieux comment, bien évidemment, l'opinion est trompée. Je voudrais encore, rappelez-vous de quelque chose. Monsieur François Mitterrand, et je l'avais dénoncé à cette époque, s'était servi de son cancer de la prostate pour arracher dans le référendum de Maastricht les 200 000 ou 300 000 voix qui manquaient à la majorité. Or, il y avait de grands professeurs, y compris RPR, qui témoignaient chaque année dans un rapport officiel que le président était en excellente santé alors qu'il y avait 15 ans que le président de la République souffrait d'un cancer de la prostate.
J'étais directeur de la rédaction de Minute à l'époque.
Sa signature, oui, n'est-ce pas, en bas de ce document.
J'étais directeur de la rédaction de Minute à l'époque et on avait écrit tout à fait au début que Mitterrand avait un cancer de la prostate. Au début, en 81, dès qu'il est arrivé au pouvoir, même avant qu'il soit d'ailleurs élu, l'ensemble de la presse, qu'il savait aussi bien que nous, parce que toute la presse était au courant, bien évidemment, comme toute la presse était au courant de l'existence de Mazarine, comme toute la presse était au courant de l'appartenance de Mitterrand à des partis d'extrême droite, à des mouvements d'extrême droite racistes quand il était gamin, comme tout le monde savait qu'il avait la francisque, etc. Tout le monde savait tout. Mais nous, quand on le publiait dans Minute, on était traités de voyous, de menteurs, de tricheurs. On nous disait, mais ils racontent n'importe quoi. Et nos confrères, les gens de Paris Match, par exemple, qui se sont vantés d'avoir été les premiers à révéler l'existence de Mazarine, alors qu'ils l'ont fait 10 ans après Minute, ouais, à l'époque, quand on le racontait dans Minute, faisaient des petits échos pervers, fielleux, pour dire qu'on était des menteurs. Donc c'est extraordinaire de voir qu'on est accusé de mensonge par des menteurs. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que je crois que la droite nationale a dénoncé les phénomènes d'insécurité. Moi, j'ai entendu, 20 discours dans lesquels vous disiez les premières victimes de l'insécurité, ce sont les petites gens. Et quand on dénonce l'insécurité, on prend le parti des pauvres parce que c'est toujours les premiers qui souffrent de l'insécurité. Eh bien, vous avez été accusé, on a été accusé parce qu'on tenait tous le même discours d'être des voyous fascistes, etc., des obsédés sécuritaires et tout. Et maintenant, on voit les communistes monter au créneau en disant ce qu'il y a d'insupportable dans l'insécurité, c'est qu'elle frappe des petits gens.
Oui, mais on me dit, dans le même temps, ah, mais monsieur Le Pen, mais vous nous parlez toujours de la même chose. Vous répétez toujours le même discours. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre discours? Vous nous parlez toujours de l'immigration, de l'insécurité, du chômage, etc. Et je réponds, bien sûr que j'en parle, parce qu'il y en a de plus en plus. Puisqu'on n'a rien fait pour que cela change, eh bien ça continue. Et ça continuera si vous vous bornez à faire ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire à fermer les yeux et les oreilles, et à mécaniquement reproduire le geste malencontreux que vous avez déjà accompli lors des élections précédentes. Enfin, pour la plupart d'entre eux.
Alors, il y a une question qui revient souvent, depuis quelques temps, à propos du Front National et de vos déclarations, Jean-Marie Le Pen, c'est la question de votre attitude vis-à-vis de l'immigration, de la première immigration, de la deuxième, de la troisième, de la situation des musulmans en France, de la situation, éthique, ou plus exactement de la situation civique des beurs dans France, et on a l'impression que vous avez évolué, que votre discours s'est, je dirais pas gauchi, mais assoupli, adouci, et que vous insistez souvent. Je vois une déclaration récente sur, vous avez dit, si j'en crois l'AFP, il faut protéger les citoyens français, y compris les musulmans. Alors, on comprend très bien, évidemment, qu'il faut, si on protège les citoyens français, il faut protéger tous les citoyens français, y compris les musulmans. Mais c'est le fait même de souligner cet aspect, qui est une évidence, qui fait qu'on se dit, mais est-ce que Le Pen n'est pas en train de tourner immigrationniste,
quoi? C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce serait une erreur. Non, bien sûr que non, je reste un adversaire résolu, convaincu de l'immigration, que je tiens pour le phénomène le plus dangereux qui nous menace, de submersion, c'est-à-dire qu'un jour, qui n'est pas si lointain peut-être, il y aurait plus d'étrangers que de Français chez nous, et qu'ils feraient la loi. D'ailleurs, d'autant que ils ont en général 18 ans de moyenne d'âge, alors que nous avons 48 ans de moyenne d'âge. Par conséquent, même à égalité, il n'y a pas besoin d'une égalité de nombre pour qu'il y ait égalité de force, et on sait qu'il y a déjà des villes, y compris des grandes villes comme Roubaix, qui sont déjà à majorité musulmane, on le sait. Bon. Mais le phénomène, n'est-ce pas, il y a une présence musulmane en France, qu'on évalue selon les statistiques entre 4 et 6 millions, peut-être 7 millions de personnes. C'est un ensemble très hétérogène. Bien sûr, et moi je me souviens toujours que j'ai été Algérie française, que j'ai été partisan de faire des Algériens des Français à part entière, comme d'ailleurs le demandaient tous les partis politiques de l'époque, à l'exception des communistes. Mais je le faisais, il est vrai, dans un esprit impérialiste, c'est-à-dire pas pour ramener le prolétariat algérien dans les banlieues parisiennes, mais pour dûment former, à la fois intellectuellement et civiquement, projeter ces hommes dans les pays, ou vers les pays dont ils avaient la culture et la langue, de façon à en quelque sorte, agrandir l'espace, le rayonnement français. Et mettant en quelque sorte mon attitude en corrélation avec mes opinions, j'avais présenté la candidature d'un arabe musulman, Ahmed Djebbour, comme député à Paris. Et Ahmed Djebbour avait payé ça de quelques balles dans le ventre quelques semaines plus tard, et il avait été élu cependant à Alger sur la liste de la Gaillarde, n'est-ce pas, député. Et il y avait un groupe de députés algériens patriotes français, dont le président était le Bachaga Boualem, à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que les voyous des banlieues en France qui sont musulmans, parce que j'ai vu que même M. Baril est musulman aujourd'hui, ainsi qu'un certain nombre de personnalités françaises qui trouvent probablement à la mode de devenir musulmans. Il y a les centaines de milliers de gens que l'on appelle de façon impropre d'ailleurs les harkis. Les harkis d'il y a 40 ans ont fait des enfants et des petits-enfants. Hein? Ces gens qui auraient pu être le noyau d'une force d'intégration française, malheureusement, on le sait, ont été abandonnés et méprisés. Il y a beaucoup des Algériens, je parle des Algériens, il n'y a pas que les Algériens, il y a les Marocains, les Tunisiens et beaucoup d'autres gens. Bon, l'immigration est un fléau pour la France, c'est clair. Et il faut la dégonfler en inversant le courant. Mais pour cela, il faut d'abord commencer à stopper l'immigration. Et pour stopper l'immigration, puisque de surcroît nous n'avons plus de frontières ni de gardes-frontières, il faut couper les pompes aspirantes. C'est-à-dire, il faut que les gens de l'extérieur, des tiers-mondes, qui sont 4 ou 5 milliards, sachent que ils ne gagneront pas en venant en France 100 fois plus sans travailler que chez eux en travaillant, ce qui est le cas aujourd'hui. Il faut qu'ils sachent que s'ils viennent dans notre pays, à moins d'y être pressamment invités pour accomplir un travail donné, n'est-ce pas, qui correspondrait à une spécialité dont nous n'aurions pas nous-mêmes les travailleurs, bon, et de façon d'ailleurs transitoire, eh bien, si on ne fait pas cela, nous allons disparaître.
Mais quand
l'ONU nous propose d'avoir 25 millions d'immigrés d'ici 2020, n'est-ce pas, en France, plus de 200 millions en Europe. Or, il faut que les gens qui viennent sachent qu'ils n'auront pas de RMI, ce qui n'est pas le cas actuellement, ils n'auront pas de logement.
Vous savez ce qu'on raconte à propos du RMI.
Oui, ils n'auront pas de logement gratuit, ils n'auront pas d'école gratuite, ils n'auront pas d'hôpitaux gratuits. Et les gens, à ce moment-là, resteront chez eux. Mais reconnaissez que c'est tout de même un geste scandaleux de complicité que d'offrir aux gens misérables du monde tous les cadeaux que les gouvernements français ont faits, au détriment d'ailleurs des pauvres en France et des contribuables français. Non, ça c'est très très clair. Mais s'agissant de ceux qui sont devenus français et qui souhaitent le rester loyalement comme des fils de France, cela, je dois dire que je pense que la France doit les intégrer.
Mais alors les intégrer, ça veut dire quoi? Oui, là, le problème, c'est que ces gens-là, si on les intègre, d'abord, il faut que nous les intégrer. La question ne se pose pas à nous. La question, elle se pose à eux. Est-ce qu'ils veulent être intégrés
mais
ou
voilà,
pas?
Mais c'est voilà, tout le problème. Mais l'ovite, on l'évite. N'est-ce pas? C'est clair. Il faut supprimer la binationalité. Il faut supprimer la binationalité, qui est une folie. Et dire aux gens, si vous êtes accepté dans les conditions que nous avons précisées dans bien des cas, si vous voulez devenir français, si vous êtes accepté comme français avec engagement des droits et des devoirs, vous devez choisir. C'est ou bien vous êtes français, ou bien vous êtes étranger. Vous n'êtes pas les deux à la fois. Et je dois dire que nous sommes en partie, les gouvernants français, sont en partie responsables de cette espèce de schizophrénie de la jeunesse, en particulier algérienne ou marocaine. Puisque on les a invités à aller au match France-Algérie, n'est-ce pas? Or, ils ont une double nationalité. Ils sont à la fois français et algériens. Et on les met devant le dilemme. Que ferez-vous? Alors là, il s'agit d'un match de foot. C'est pas trop grave. Mais que ferait-il si jamais la France était en situation de conflit avec l'Algérie?
On a eu la réponse au Stade de France. Parce que s'ils ont sifflé la Marseillaise, ils auraient fait siffler les balles sur les gens qui chantent la Marseillaise.
Et bien voilà. Mais
justement,
cette situation-là, j'en suis un adversaire résolu.
Oui, mais alors comment la résoudre? Parce que comment en sortir? Parce que ces jeunes qui étaient dans le stade, supposons qu'on supprime la binationalité. Comme ils sont en France, ils vont prendre la nationalité française. C'est évidemment plus agréable, c'est très probable. Surtout si on leur dit, si vous n'avez pas la nationalité française, vous n'avez aucun titre à rester.
Oui, c'est pas certain.
Bon.
C'est pas certain.
Disons que c'est probable.
C'est pas certain.
Mais qu'est-ce qu'on aura résolu? Ils auront la nationalité française, mais dans leur cœur, dans leur tête et dans leur âme, ils seront toujours arabo-musulmans ou maghrébo-musulmans. Et alors, ça pose directement la question, par exemple, du statut de l'islam en France. Parce que, alors, vous dites, il y a 6 ou 7 millions d'arabo-musulmans en France. Bon, ces gens-là, on n'a aucun titre à les empêcher, dans un État laïque, de pratiquer leur religion comme ils veulent. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils puissent construire des mosquées. Et on sait bien que les mosquées, ce n'est pas du tout comme les églises. Ce ne sont pas des centres de prière.
Oui.
Ce sont des centres de prière, de formation politique.
C'est un peu long de parler de ça au cours de notre entretien, mais j'ai prononcé un discours au BBR, presque entièrement consacré à ce sujet, qui est un sujet difficile, délicat, où il faut préserver à la fois l'intérêt de la France, l'intérêt des Français, mais aussi rester juste et assumer les responsabilités qui ont été les nôtres, les nôtres propres déjà, n'est-ce pas? Nous avons été d'accord pour que les harkis viennent en France, n'est-ce pas? C'était bien la moindre des justices, puisqu'ils s'étaient battus à nos côtés, puisqu'ils étaient des citoyens français déjà. Bon, donc, il faut avoir une position très ferme, mais à l'égard de l'immigration qui n'est pas seulement algérienne, qui est planétaire. Il faut élaborer une politique de coopération avec les pays étrangers, de façon à les convaincre que leur intérêt est de garder leur population et que le nôtre est de préserver la nôtre, en ayant la volonté et la fierté de notre pays, de notre patrie. Mais qui défend encore aujourd'hui ces idées-là sans passer pour un ringard, voire pour un fasciste ou un nazi? Car aujourd'hui, quand on est patriote français, on est immédiatement qualifié d'extrémiste. Et je suis désolé, pas par M. Krivine, on l'est par le président de la République qui a choisi les marches de l'Élysée pour condamner ce mouvement xénophobe, raciste et antisémite, et par le Premier ministre, Monsieur Jospin. La classe politique française, la classe médiatique française, l'Église de France, toutes les syndicats, toutes les forces sociales françaises, y compris l'ancien CNPF, je ne sais plus comment il s'appelle,
le MEDEF,
toutes les forces en France, sauf la droite nationale, sont d'accord pour ouvrir les portes à tout risque, en espérant que ça s'arrangera de soi-même, et en le faisant, en supprimant les frontières, en confiant les lois, la monnaie à des organisations étrangères. Et nous sommes seuls, et seuls avec le peuple français. Et c'est la question que moi je poserai dans la campagne électorale. Est-ce que vous, peuple français, voulez réagir? Est-ce que vous contentez de ces situations? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation? Ou bien est-ce que vous êtes prêt à donner à un gouvernement la confiance et les moyens d'imposer la sauvegarde de la France?
Moi, je veux dire que le fait même qu'on soit dans la situation de poser cette question est quelque chose de terrifiant.
Mais nous sommes dans cette situation. Ouais. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Mmh. Parce que se dire, bon voilà, nous décidons demain de renvoyer 500 000 étrangers. On le fait comment? Si ça n'est pas par une persuasion liée à la perte de leurs avantages ici et à l'intérêt qu'ils auraient d'être ailleurs, comment allons-nous le faire? Par des avions? Par des bateaux? Ces bateaux pourront-ils accoster? Leurs équipages ne seront-ils pas lynchés avant même d'y être arrivés? Voilà l'étendue du crime commis par les hommes politiques français de droite et de gauche depuis 30 ans. Comme dit, mais qu'est-ce qui vous différencie de Monsieur Bayrou, Madelin, Chevènement et Pasqua? Une chose essentielle, ils ont été ministres. Ils ont été ministres, et pour Chevènement, 10 ans. Quand j'entends dire qu'il y a des gens de droite, voire même de droite nationale, qui ne voient pas d'un mauvais œil...
Ça, c'est les crétins, ça, voilà, c'est clair. Bon, on va en parler, d'ailleurs.
Droite, n'est-ce pas? Monsieur Chevènement a titularisé, enfin, comment dit-on...
Régulariser
100 000 clandestins d'un seul coup, d'un coup de baguette. Et il est responsable de la modification de la loi qui permet pratiquement maintenant d'entrer en France sans contrôle. Il faut que les Français sachent qu'il a été donné par nos consulats d'Algérie l'année dernière 600 000 visas. Et quand on sait quelle est la situation de l'Algérie, quand on sait les effets de la dictature du FLN, la poussée démographique formidable, à quoi peut penser un jeune homme algérien ou une jeune fille algérienne, sinon autant que faire se peut à foutre le camp? Et où elle est? Elle est dans le paradis terrestre, c'est-à-dire en France. Et ceci, ça court le monde entier, et c'est pour ça qu'il est arrivé, il y a à Paris 250 000 Chinois, dont on pense qu'ils seront 500 000 dans 5 ans. Et là, alors, les réservoirs sont inépuisables, que ce soit les Hindous, les Pakistanais, les Kurdes, les Turcs, les Africains noirs, et on rencontre dans ceux qui sont, par exemple, moi je rencontre quelquefois des musulmans français, patriotes, qui me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher ce désastre? Un type comme Tebib, qui est un catholique d'origine algérienne, son père était député, justement, dans le groupe dans lequel il y avait la Gaillarde, Djebbour, le Bacha Gaboualem et tout ça. Eh bien, il faut lire ses livres. Il est pratiquement, aujourd'hui, dans nos rangs, même le seul qui écrive des bouquins sur la défense nationale. Il s'agit pourtant d'un berbère, hein, c'est un kabyle chrétien. Il y en avait une petite minorité, mais il y en avait. Mais c'est un problème dramatique. Mais je dirais que dans ma préoccupation de l'immédiat, je considère que l'immigration est plus grave que l'islam. Mais je reconnais que les deux phénomènes peuvent parfaitement se conjoindre et aggraver de beaucoup la densité des problèmes. C'est certain. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai dit dans mon discours, je ne sais pas si vous le lirez. Pour éviter que les gens aient envie de venir chez nous, il faut que les places soient prises par des Français. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un mouvement de natalité et une politique familiale pour le créer. Pardon. Et il faut que les Français soient fiers d'être Français. Pour ça, il ne faut pas que nos hommes politiques aient l'habitude de traîner dans les couloirs des juges d'instruction. J'ai dit quelquefois, je l'ai peut-être dit ici déjà, je raconte ce que dit un petit arabe en correctionnel. Il dit, votre honneur, c'est vrai que j'ai volé un autre radio, mais j'ai encore volé 100 000 fois moins qu'un ministre. Bon, alors évidemment, quand les ministres donnent cet exemple, on ne peut pas s'étonner que la justice étant ce qu'elle est, la police étant ce qu'elle est, le laxisme général étant ce qu'il est, eh bien nous allions tout doucement, ou peut-être même moins doucement que ça, vers des situations qui s'apparentent de très près à la guerre civile. Alors, ce qui me paraît encore bien plus grave dans l'immédiat que tout autre phénomène.
Je voulais vous poser une question sur la relaxe qui a été prononcée à l'endroit de Hu, du communiste Hu, du socialiste Strauss-Kahn, mais vous venez de répondre en réalité.
C'est le contraire qui m'eût étonné.
Bien sûr. Et alors, Hu, interrogé en apprenant la nouvelle, a eu le culot. Moi, je dois dire que je suis pétrifié devant le culot infernal de ces salauds. Il a dit, vous comprenez, on se demandait pratiquement s'il n'allait pas porter plainte contre l'État français pour persécution judiciaire. Ouais. J'ai dit, cette affaire a duré trop longtemps, j'ai été accusé trop longtemps, c'est très pénible, etc. Ces communistes ont monté une entreprise de pillage et de raquettes qui a littéralement vidé les caisses des municipalités pendant des années et des années. C'est un parti de voyous, de voleurs. Eh bien, on en chope un une fois, on le traîne devant un tribunal, on l'acquitte, et il dit, ah quand même, vous vous rendez compte, ça a été très pénible pour moi. Ils ont tous les culots.
Oui, mais ne vous étonnez pas, après ce que je vous ai raconté de l'attitude de la présidente d'un syndicat qui comporte 30% de magistrats.
Alors il faudra,
vous pouvez tirer des conclusions.
Le nom du magistrat.
Beaucoup de nos compatriotes oublient quelque chose, c'est que nous sommes sous un gouvernement socialo-communiste. Il y a très peu de gouvernements où les communistes sont au pouvoir dans le monde. La France est un de ces pays-là.
La France, Cuba, le Vietnam, la Chine.
Voilà.
À peu près tout.
Voilà.
Je sais pas.
Il n'en reste plus beaucoup.
Ouais. Bon, on va donner, si vous voulez, la parole pour leurs questions aux auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, mais j'ai vu que Victoria en éliminait à mesure que je posais les miennes, puisqu'il y en avait beaucoup qui probablement portaient sur les sujets qu'on a évoqués.
Mais il y en a probablement qui restent. Alors, ils sont pas ordre d'arrivée.
Comment on fait? Vous voulez
tourne en arrière.
On les lit comme ça et vous répondez
au fur et à mesure ou on en lit un paquet et puis.
Vous les avez classés?
Ah non, je n'ai touché à rien.
Ah bon, alors. Allez-y.
Alors, si vous vous engagez, Monsieur Le Pen, à remettre le franc en circulation, vous avez 80% de votants pour vous. C'est tout ce qu'on vous demande d'urgence.
Ben écoutez, je m'y suis engagé avant même qu'on me le demande. Il est bien évident que la monnaie nationale conditionne l'indépendance du budget, l'indépendance de la politique économique, l'indépendance de la politique sociale, et que sans monnaie nationale, il n'y a plus d'indépendance, d'une part, et que d'autre part, pour des raisons alors là qui sont à la fois morales, sentimentales, le franc est notre monnaie depuis si longtemps, il porte en même temps le nom qu'il a, donc c'est une trahison épouvantable que de s'être laissé acculer ou d'avoir promu l'idée de l'euro et de cette monnaie bidon d'ailleurs, car on s'aperçoit qu'elle n'a pas du tout les avantages qui avaient été promis à ses utilisateurs au moment de sa création.
Pardon, je voudrais tout à l'heure quand vous parliez du RMI, je vous ai dit vous savez ce qu'on dit à propos du RMI. Voilà ce que je voulais dire. C'est un éditeur me le rappelle. Dans Le Monde d'hier, daté d'aujourd'hui, à la page 3, à la rubrique En vue, on peut lire quelque chose d'intéressant. Deux points, ouvrez les guillemets. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Le Monde. Et voilà ce que c'est. Le journal La Nouvelle République accuse le maire de Bab El Oued d'avoir quitté les quartiers d'Alger, où, samedi 10-11, plus de 300 personnes ont péri emportées par un fleuve de boue pour aller toucher son RMI à Paris, où il est chômeur indigent.
Oui, ben voilà. C'est exact.
C'était ça que je voulais vous dire.
C'est emblématique.
Il semble que ce soit parfaitement exact. Alors, que quand on a cherché le maire de Bab El Oued, on s'est aperçu qu'il était à Paris à ce moment-là, parce qu'il venait chercher son RMI.
C'est emblématique.
Si par bonheur vous veniez à prendre le pouvoir en France suite à la déliquescence dans laquelle le pays se trouve, comment pourriez-vous faire pour nous délivrer de toute la racaille alors que nous n'avons plus d'armée ?
Oui, la racaille, c'est un problème particulier. Moi, je pense qu'un État qui se respecterait, qui ferait appliquer ne serait-ce que les textes qui existent, avec une magistrature apolitique qui applique les sanctions, avec un système pénitentiaire disposant, il faut le dire qu'il ne dispose pas, mais disposant d'un nombre de places suffisant pour que soit modulée la répression entre les mineurs, les majeurs, les crimes de sang, etc., la correction, eh bien, je crois qu'on pourrait arriver assez rapidement à remettre au pas les petits groupes de subversifs, ou de gangsters qui terrorisent les banlieues. C'est le vœu de beaucoup d'habitants de ces banlieues, et pas seulement, je dirais, des Européens. C'est vrai aussi de tous les gens sur qui ils font peser leur dictature. Mais pour cela, il faut une volonté politique. Vous voyez, quand vous voyez le ministre de l'Intérieur qui, exprimant la politique du gouvernement, annonce comme une espèce de nouvelle remarquable que l'on va doter les policiers en temps ordinaire, n'est-ce pas, du gilet pare-balles, ce qui est la ligne Maginot individuelle, quoi, hein. Bon, et j'espère qu'on va mettre un placard avec des grandes lettres dessus. On est prié de ne pas tirer dans la tête, n'est-ce pas, de façon à ce que les gangsters soient quand même assez gentils de vouloir bien tirer dans le gilet pare-balles. Bon, que cela puisse se faire de façon officielle, c'est dérisoire. Seulement, on vous répondra, on peut pas mettre les gens en prison. Il y a les gens qui ont moins de 2 ans ou 3 ans de prison ferme ne rentrent pas en prison, parce qu'il n'y a pas de place. Et parce que pour leur donner une place, il faut libérer des gens qui, eux, ont été condamnés à des peines encore plus lourdes. Pourquoi ? C'est parce que depuis 30 ans, le monde politique français, à la suite de 1968, a cru qu'on entrait dans l'âge d'or et qu'étaient périmées toutes les formules sur lesquelles avait reposé la stabilité et la sécurité des États, à savoir la loi, Duralex, il n'y a pas de société sans loi, il n'y a pas de loi sans sanction, il n'y a pas de loi sans morale. Eh bien, si on n'applique pas ces principes-là, on va à la désintégration, à l'anarchie et à l'anarchie de violence. Les plus violents seront les patrons. Et d'ailleurs, l'État français, les gouvernements français en ont pris conscience, qui ont trouvé cette manière étonnante de combattre la délinquance et le crime, c'est de charger dans ces banlieues les gangsters et les criminels de bien vouloir s'occuper de l'ordre. n'est-ce pas ? Il y a un ordre. Il y a un ordre de la mafia. Ça existe. La mafia, elle fait respecter son ordre. Mais ça n'est plus l'ordre de l'État, ça n'est pas l'ordre de la loi, ça n'est pas l'ordre de la République. C'est la loi du gang.
Oui. Remarquez, en contrepartie, on va quand même aider à remettre de l'ordre chez les talibans.
Ah, mais bien sûr. Il n'est bon bec que d'ailleurs chez nous.
On ne peut pas tout faire. On ne peut pas à la fois régler les problèmes des talibans et régler les problèmes des talibans.
C'est ce que j'ai dit pour Colonna. Quand on n'est pas capable d'attraper Colonna en Corse, on ne va pas chercher le Ben Laden en Afghanistan, c'est sûr.
Avez-vous changé votre position sur l'immigration non européenne ?
Non, j'ai pas changé. Elle demeure, mais je suis comme vous tous. J'avance avec des lunettes brouillées puisque on n'a pas de vraies statistiques, on n'a pas de vrais chiffres, on n'a pas de vraies informations, et celles-ci sont déguisées, camouflées, occultées.
Une étudiante en classe préparatoire vous demande votre avis sur le rôle de la pensée unique au sein de l'éducation nationale dont vous êtes la cible. Quelle solution, si vous êtes président, comptez-vous y apporter ?
Mon Dieu, l'éducation nationale, c'est l'un des ministères d'ailleurs qu'a occupé monsieur Chevènement avec celui de l'intérieur et de la défense, c'est-à-dire ceux qui ont gouverné les pires situations dans notre pays. C'est un fief qui est entre les mains des différentes formes de communisme qu'il y a dans notre pays. C'est un véritable monopole dans lequel les Français honnêtes et patriotes sont traqués, qu'ils appartiennent au monde enseignant ou au monde étudiant, et il y a là bien évidemment une fabrique de délinquants et de criminels, car une grande partie l'éducation, et pas seulement l'éducation familiale, mais l'éducation scolaire, l'éducation universitaire, est en large partie responsable de cet amoralisme qui domine, en quelque sorte, dans l'esprit de beaucoup de nos jeunes.
On n'a pas eu le temps, je ne vous ai pas posé la question, mais j'y viens quand même. Moi, je suis totalement abasourdi, je voudrais avoir votre sentiment sur ce qu'on appelle l'effet Chevènement, sur l'espèce de caution que certains, même chez nous, apportent à cette formidable imposture.
Oh, mais c'est entièrement fabriqué.
Il y a des gens qui marche quand même, il y a des gens sérieux.
Mais d'accord, mais bien sûr, mais c'est entièrement fabriqué.
Qui dit c'est un patriote.
Écoutez, moi, je le dis, dans les 24 derniers sondages, j'étais toujours, sauf une fois, en troisième position derrière le moineau à deux têtes, Jospin et Chirac. Et Chevènement était alors à 4%. Bon. Brusquement, au bout de deux mois d'une campagne énorme, une campagne de presse formidable, télévision, radio, journaux, etc. Alors, ça piège un certain nombre de gens. Bon, j'ai vu aller vers Monsieur Chevènement, Monsieur Couteau, un certain nombre de gens comme ça, qui, un peu comme les phalènes, n'est-ce pas, vont vers la lumière qui brille dans la nuit. Mais Monsieur, il a été mis au pinacle. Mais moi, je vous dis, arrêtez cette campagne-là, et Monsieur Chevènement se dégonflera comme une baudruche. Quand les gens sauront s'il y a des gens de droite qui le considèrent comme un sauveur, alors qu'ils se souviennent quand même de ce qu'il a été. Il a été le promoteur du Parti Socialiste Nouveau, n'est-ce pas, avec son CRS. Il a été le créateur du programme commun de la gauche. Il n'a jamais, mais jamais attaqué les communistes, jamais. Il vient de l'extrême gauche, il n'a jamais attaqué les communistes, et alors là il se part de quelques oripeaux tricolores qu'il attribue à la République.
C'est même comique, l'autre jour je l'entendais sur France Info, il expliquait qu'il avait toujours été gaulliste, mais qu'il avait préféré adhérer au Parti Socialiste parce que c'était là qu'on s'occupait des pauvres.
Oui, c'est ça. Oui. Enfin, bref, je vous ai dit tout à l'heure les 100 000 régularisations de clandestins, parce que les sans-papiers, ce sont des délinquants, ce sont des gens qui ont franchi nos frontières en accomplissant un délit grave. Eh bien, ce ministre de l'Intérieur a fait cela et beaucoup d'autres choses.
Comment pourrions-nous, même si nous le voulions, comment pourrions-nous arrêter l'immigration compte tenu des lois européennes ?
Alors d'abord, c'est vrai, voilà une bonne question, il faut se dégager de l'Europe de Bruxelles. Puisque, n'est-ce pas, dans l'Europe de Bruxelles, nous n'avons plus aucune possibilité d'agir légalement. Et en 2004, l'immigration tombera totalement sous la coupe de l'Europe. Et je peux vous dire que dans ce domaine-là, pour avoir été parlementaire européen pendant plus de 15 ans, je peux vous dire que dans ce domaine-là, la démagogie est maîtresse et que les députés européens des autres pays sont encore pires que les nôtres. Alors, il faut se dégager de l'Europe de Bruxelles, il faut recouvrer l'indépendance de nos fonctions régaliennes, c'est indispensable. Sans ça, on ne fera rien. Et il faut surtout un grand élan populaire, j'allais dire presque révolutionnaire. Si on regarde la situation et les forteresses qui se sont installées, le blocage des institutions, l'impossibilité de faire quelques réformes que ce soit, et c'est pour ça que je propose une formule, mais à condition qu'elle ait l'accord des Français, qui sont quand même 50 millions encore, bon, eh bien, qu'ils ne seront plus pendant longtemps, ils ne seront plus majoritaires chez eux. Ce sont des référendums qui donnent à un pouvoir la force et la légitimité nécessaire pour faire des réformes qui, il est bien évident, iront à l'encontre de beaucoup d'intérêts puissamment organisés.
Alors, puisque vous évoquez justement ces réformes, je voudrais en terminer, il nous reste 2 minutes, avec une question qui revient. Rétabliriez-vous la peine de mort pour certains crimes? Croyez-vous qu'on peut encore en France rétablir la peine de mort?
Ah, tout à fait. Je dirais même que si on ne rétablit pas la peine de mort pour les crimes, voilà, pour les crimes, ce sont les tribunaux, les cours d'assises qui jugent si on doit condamner telle ou telle personne. Mais je vois pourquoi on spécialise les vieux, les petits-enfants, ou alors les policiers ou les pompiers. Là, il y a un code pénal qui a fait ses preuves en France. Eh bien, il faut que les crimes soit passible, certains crimes en tout cas passible, de la peine de mort. La peine de mort est emblématique. Il est singulier de voir se prendre de passion pour les tueurs en série. Je ne parle même pas pour un drame individuel, complexe, etc., qui est sujet de théâtre, de pièces de théâtre ou de roman. Je parle des tueurs en série. Eh bien, il y a des gens, et en particulier à gauche, qui ont la passion non seulement de faire échapper ces gens-là à la mort, mais même de les libérer. Et les mêmes, ce sont les mêmes, Serge de Mekech, à qui on dit, mais dites-moi, si cet avion se précipitait sur le Capitole, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? L'abattre, évidemment, répondent ses adversaires de la peine de mort, qui ne voient pas la contradiction qu'il y a à défendre la vie d'un tueur en série, mais à sacrifier 150 ou 200 malheureux passagers. Peut-être faudrait-il le faire, mais on peut tout de même pas le faire en étant un adversaire de la peine de mort.
Merci Jean-Marie Le Pen. Si vous voulez rester encore 5 minutes au début de l'émission, au début de la deuxième partie, j'ai encore une question ou deux à vous poser. Donc, alors, vous restez avec
volontiers.
Nous.
Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 novembre 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 15 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Alors poursuivons la parole aux auditeurs pour les questions à Jean-Marie Le Pen.
Il a voulu
rester encore quelques minutes.
Les banques sont-elles enfin décidées à vous accorder le crédit nécessaire ?
Eh bien pour l'instant pas encore. Nous en sommes à étudier, on a sélectionné 4-5 formules, mais il a fallu aller prospecter loin et longtemps pour que trouver des gens qui acceptent déjà d'étudier la question avec nous, à leurs yeux, à tout risque, compte tenu des risques de représailles qui peuvent s'exercer sur eux. Les gens, vous savez, nous vivons dans un pays qui a peur. Est-il devenu totalement pusillanime et a-t-il peur de son ombre ? Il y a une part de vrai dans cette affirmation. Mais il y a aussi une pensée unique, il y a un terrorisme intellectuel. Alors au moment où on nous demande de lutter contre le terrorisme international, peut-être faudrait-il rappeler que le terrorisme le plus redoutable est le terrorisme intellectuel, celui qui empêche la pensée de s'exprimer, et en particulier quand elle est colorée de tricolore, si j'ose dire.
Il y a quelques années, devant les télévisions américaines, on demandait à Madeleine Albright ce qu'elle pensait des 800 000 enfants irakiens déjà morts. Elle a répondu, c'est un enjeu politique qui en vaut la peine.
Oui.
Qu'en pense Jean-Marie
Oui,
Le Pen?
Écoutez, voilà. Là aussi, il y a des formes, je l'ai dit, en m'excusant de me citer dans le discours que j'ai prononcé au BBR, il y a des formes de terrorisme d'État. Et il est probable que si on veut diminuer la menace terroriste dans le monde, il faut diminuer aussi le potentiel de haine qu'un certain nombre d'actions ont motivé. Il est sûr que le drame de New York ne pouvait pas plonger dans la tristesse les Irakiens qui ont subi cette perte d'un million d'enfants acculés à la misère et à la mort par la plus grande puissance du monde, par les plus riches. Il y a là un contraste qui révolte les cœurs les plus durs. Alors, c'est sûr que cette manière qu'ont les Américains de proclamer leur vertu, coram populo, et en même temps d'agir d'une façon dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est moralement contestable, ne contribue pas à clarifier le débat.
Il faut lire le livre de Jean-Yves Le Pen sur la question.
Non, c'est Yves Daoudal qui vient de parler.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
À côté du silence qui vous a été imposé, toutes les radios et les chaînes de télé ont diffusé des reportages aussi bien politiques que littéraires et des émissions de variété où on parlait du Front National avec des attaques incessantes, diabolisantes, insultantes, sans que l'on puisse avoir le droit de la réponse. C'est scandaleux.
Nous sommes le Saint-Sébastien de la politique française attaché. Mais il n'est pas mort, Saint-Sébastien. Ça, c'est que les gens ignorent. Souvent, on le voit, n'est-ce pas, représenté par beaucoup de grands artistes, criblé de flèches. Et on se dit, le malheureux, c'est un martyr, il est mort. Non, Saint-Sébastien a survécu, et c'est toute la grâce que je nous souhaite.
Craignez-vous un effondrement de la bourse lors du passage à l'euro ?
Il est possible que la situation économique provoque une chute de la bourse qui a déjà qui s'est tout de même déjà pas mal dégonflée. Il faut dire qu'elle était à des niveaux qui étaient aberrants, en tous les cas la plupart des valeurs. Mais ce qui est grave et ce qui va peut-être faire prendre conscience à nos concitoyens de la gravité de la situation, puisque c'est généralement à la hauteur du portefeuille qui perçoivent le plus facilement le danger, c'est la récession. Nous sommes en situation de récession mondiale, puisque le Japon est déjà engagé, les États-Unis, alors, suite à la suite des événements qui se sont produits, il y a quelques mouvements erratiques de la bourse, mais les gens devraient se méfier, profiter pour vendre pendant que ça monte. C'est un conseil que je leur donne. L'Allemagne est déjà en récession et nous suivrons le mouvement. Par conséquent, au lieu des 2,5% qui sont promis par M. Fabius, selon la fameuse technique de la méthode Coué, n'est-ce pas, croyez-moi puisque je mens, eh bien, nous allons sans doute être à zéro, peut-être au-dessous de zéro, et alors là, le chômage va bondir, et nous avons déjà un budget en déficit de 220 milliards, une dette colossale, nous n'avons aucune ressource à engager, puisque pour améliorer leur popularité, les socialistes ont dépensé l'argent pour boucher les trous, créer des emplois bidons, etc., nous n'avons plus de réserve. Voilà. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, peut-être les Français se diront, mais bon sang, comment sommes-nous dirigés ?
Alors Jean-Marie Le Pen, avant de nous quitter, un mot, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose de personnel et si possible d'optimiste ?
Je me donne en exemple, en quelque sorte, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette anecdote quand, devant monsieur Michel Chiffre et je ne sais qui me disait, mais enfin, monsieur Le Pen, vous pensez pas à vous retirer quand même, un jour de la politique? J'ai dit, écoutez, moi, je fais pas ça pour moi. Si demain, l'immigration, le chômage, l'insécurité étaient réglés, Dieu merci, il reste sous les tropiques suffisamment de plages blondes. Ah, blonde évidemment. Oui, blonde évidemment. Alors, moi, je dis, la France est un pays missionné. C'est un pays providentiel. Alors, cela ne nous dispense pas d'être intelligent et lucide, courageux. Mais ça nous donne quand même l'espérance que nous ne serons pas seuls. Et que l'effort que nous ferons peut être multiplié d'une manière incommensurable par la Providence. On ne doit pas compter seulement sur la Providence. Aide-toi et le ciel t'aidera. Commençons donc par nous aider.
Merci Jean-Marie Le Pen. J'espère qu'on aura donné un peu de cœur au ventre aux Français, à ceux qui nous écoutent en tout cas, parce que c'est vrai que la situation est quand même assez peu engageante. Et si mes invités suivants me le permettent, on va faire un petit break, c'est le mot n'est pas joli, une petite coupure. On va écouter un tout petit peu de musique pour laisser partir Jean-Marie Le Pen, et puis ensuite on va passer à mes invités suivants qui sont Madame Juliette Pille, bonsoir Madame.
Bonsoir.
Qui elle aussi est une sorte de Sisyphe. Elle a décidé de porter un gros rocher, elle va nous raconter ça. Et puis nous recevrons également Yves Daoudal, qui est l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Le dossier Boudarel, et qui est venu accompagné d'une des gloires de notre famille, un des grands, grands bons hommes de la famille, qui est Jean-Baptiste Biaggi. Bonsoir, maître Biaggi. Comment vous portez-vous ?
Mieux.
Sur vos deux pattes.
J'ai fait ma bronchite annuelle.
C'est bien, c'est fait. Donc le plus dur est fait.
J'ai fait mes antibiotiques annuels et ça m'a très bien réussi.
Bien, un tout petit peu de musique et puis on va ensuite donner la parole à Juliette Mills parce que on a besoin d'une voix féminine. Tout bonne chance.
Non, il ne faut pas.
Surtout pas.
Non.
Mais je sais ce que je vous
mais
dis.
Mais l'amour est fatal quand même, donc ça va aller. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Bien, mon cher Yves Daoudal. Bonsoir. Bonsoir d'abord. Bonsoir maître Biaggi. Je répète que vous êtes tous les deux complices dans la constitution de ce dossier Boudarel. Alors la question traditionnelle, obligatoire, c'est à quoi ça sert de faire un livre sur l'affaire Boudarel en 2002, alors que Boudarel a été blanchi totalement et qu'il a même pu faire des procès et gagner des procès contre des gens qui l'avaient accusé de choses pour lesquelles il n'a pas été condamné.
Oui, justement, vous donnez la réponse en même temps parce que... pourquoi faire un livre maintenant ? Il y a une raison chronologique extrêmement simple, c'est que tout le monde a entendu parler de l'affaire Boudarel en 91, et puis après on n'en a plus beaucoup parlé. Il y a eu ces procès justement, et ce que les gens ne savent pas, c'est que les procès se sont terminés en fin 99, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Et justement, entre fin 99 et maintenant, c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire le livre, donc pour faire un livre qui reprend toute... Enfin, qui s'appelle le dossier Boudarel, justement, parce qu'il reprend, enfin, il donne tout ce qu'on peut savoir de sûr actuellement. Alors, sur Boudarel, y compris les procès.
La question que doivent se poser nos 276 000 auditeurs de moins de 8 ans, c'est qu'est-ce que c'est que le dossier Boudarel ?
Alors, je crois quand même beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie ont entendu parler de
Boudarel. Ah oui, mais je parle des millions de jeunes qui ont moins de 8 ans et qui nous écoutent.
Donc pour dire l'essentiel, Boudarel était un militant communiste qui est allé au Vietnam, enfin, faut dire le Vietnam, donc en Indochine, le Vietnam du Sud, comme professeur de philosophie. Et puis, il est passé au Vietnam communiste, au Vietnam du Nord, où rapidement, il a été nommé par les communistes vietnamiens comme instructeur politique dans un camp de prisonniers français, de soldats français qui étaient prisonniers dans les camps Viet Minh, et Boudarel était le commissaire politique d'un de ces camps, le camp numéro 113. On a donc beaucoup parlé du camp 113 en 91 quand a éclaté l'affaire Boudarel. Donc le camp 113 est en 1953, où Boudarel s'est conduit comme un tortionnaire communiste de la pire espèce, c'est-à-dire qu'il a appliqué, lui, vraiment, ce qui était très rarement le cas même parmi les Vietnamiens, il a appliqué vraiment toutes les consignes communistes de lavage de cerveau, etc., sur des gens qui étaient blessés, qui étaient malades et qui mouraient comme des mouches.
Comment peut-on expliquer qu'il n'ait fait l'objet d'aucune poursuite officielle à la suite de cette aventure? Parce que il est revenu en France, il faut dire qu'il est rentré en France, il a été réintégré dans l'enseignement universitaire.
Oui, mais tout ça s'est passé sur une très longue période, justement. C'est ça le problème, c'est que, après la fin de la guerre d'Indochine, Boudarel est resté longtemps au Vietnam, où il est devenu fonctionnaire du gouvernement vietnamien. Jusque dans les années 60. Ensuite, il est allé à Prague. Via Moscou, oui, où il a été hébergé par le Parti communiste d'Union soviétique, comme il le dit lui-même. Ensuite, il a travaillé à Prague pour la Fédération syndicale mondiale, c'est-à-dire pour l'appareil syndical communiste international. Et il est revenu en France qu'en 66. Et en 66, tout le monde avait oublié et voulu oublier la guerre d'Indochine. Et depuis, il y avait eu la guerre d'Algérie, du reste. Et donc on ne s'occupait plus de la guerre d'Indochine, on ne s'occupait pas de ce qui avait pu se passer, etc. Les pauvres victimes de Boudarel, la plupart étaient mortes, pour commencer. Et ceux qui avaient survécu, eh ben beaucoup d'entre eux, justement, étaient allés en Algérie, puisque c'était des soldats, et ils ne voulaient plus entendre parler de ce qu'ils avaient vécu en Indochine. Et voilà pourquoi il a fallu attendre très très longtemps que quelqu'un retrouve Boudarel. D'ailleurs, ces victimes ne s'imaginaient même pas qu'il puisse être revenu en France.
Et ce qui est extraordinaire, c'est quand il a été retrouvé, il y a eu un moment d'émotion, effectivement, comme vous le racontiez, un moment de mobilisation, et puis, assez vite, c'est retombé. C'est-à-dire que ça n'a pas suscité la passion vengeresse, par exemple, qu'on peut constater quand il s'agit d'autres affaires comparables.
C'est retombé parce qu'on
si on
pas,
avait, imaginons que des membres de la communauté israélite aient retrouvé dans l'enseignement français un ancien chef de camp nazi, il aurait quand même probablement été poursuivi, je ne sais pas.
Je vous signale qu'il y a eu plus de morts au camp 113 qu'il y en a eu dans n'importe quel camp nazi.
En pourcentage.
En pourcentage, oui.
En pourcentage, oui.
Donc,
c'est parce qu'on fait pas on ne peut pas faire le procès du communisme.
On est aujourd'hui dans un pays où Papon est en prison et où Boudarel fait des procès aux journaux qui...
Il est en liberté.
Non seulement il est en liberté, mais il gagne les procès qu'il intente aux journaux qui font simplement le compte-rendu de ses activités au service de la révolution internationale.
C'est parce que le procès du communisme est impossible. C'est l'un des objectifs aussi de mon livre, c'est de montrer que justement ce procès-là est impossible. Parce que la profession de chasseur de nazis, comme je dis, est honorablement connue, donc la profession de chasseur de tortionnaires communistes ne peut pas exister.
Et puis il y a eu l'amnistie. Cette amnistie qui a été votée en 1956, parce que deux députés communistes ont demandé à faire un amendement qui amnistiait Boudarel, c'est tout, ou presque.
Oui, il y a une loi d'amnistie, oui, qui a été faite pour trois ou quatre personnes.
Il y a Alex Boudarelia.
Et l'essentiel étant
Boudarelia. Qui est le pendant, au contraire, si j'ose dire, de la fameuse Lex Forissonia, qui a été votée contre le professeur Forisson. Et il y a la Lex Boudarelia, qui est votée pour le professeur Boudarelia.
Qui a été votée en catimini, et personne n'a parlé de cette loi quand elle a été votée.
Je pense que dans quelques temps, on aura la Lex Lugania, qui autorisera à abattre le professeur Lugan dans toutes les circonstances possibles, à vue, quoi. C'est probablement ce qui va se produire, je crois. On est dans un système comme ça. Quel sentiment vous avez, Daoudal, après avoir écrit ce livre? D'abord, quel sentiment éprouviez-vous en l'écrivant? Est-ce que vous avez eu de la colère, de l'écœurement,
On éprouve tout ça, mais c'est surtout éprouvant d'écrire sur Boudarel, de reproduire les témoignages épouvantables des victimes de Boudarel, parce que c'est vraiment quelque chose d'effroyable, quoi. Je sais, par exemple, c'est ma femme qui a relu le texte, et puis elle pouvait plus dormir quand elle après avoir relu notamment le chapitre qui est le plus important chapitre sur le camp 113 lui-même.
Et l'ayant écrit.
Sinon, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est la personnalité de Boudarel, parce que le dossier Boudarel, c'est aussi sa personnalité. C'est un personnage qui commence sa vie avant-guerre, dans les années 30, dans des institutions catholiques, et qui est un petit garçon très catholique, et qui dit même qu'il était le seul dans sa classe à vouloir être curé. Et il dit qu'il aimait beaucoup le chant grégorien. Et puis donc il y avait les prêtres les aumôniers, et les aumôniers faisaient chanter des chants progressistes, et c'est comme ça qu'il a découvert l'International, dont on lui a dit que c'était un chant très chrétien, et il a trouvé immédiatement qu'effectivement c'était un chant magnifiquement chrétien.
Ça, c'était donc dans les années 30.
Ouais, et juste avant la guerre. Et pendant la guerre. Et donc, de fil en aiguille, des chants progressistes chrétiens à l'International, on passe au Parti communiste. Et quand on est un jeune idéaliste comme Boudarel, qui était prêt à être prêtre, devenant communiste, il devient un véritable apparatchik sans sentiment, et il devient tortionnaire du camp 113.
C'est étrange, parce qu'on peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé, par exemple, au Burundi, où certains membres de l'Église catholique, alors là, ultra-progressistes, ont provoqué. Parce que c'est l'Église, c'est l'Église conciliaro-progressiste qui, au Burundi, porte la principale responsabilité des massacres ethniques qui ont eu lieu.
Au Rwanda d'abord.
Au Rwanda, je dis au Burundi, au Rwanda, qui porte la responsabilité dans la mesure où les curés progressistes ont littéralement incité à la guerre civile entre possédants et dépossédés.
Boudarel est un exemple assez typique de la perversion de la pensée chrétienne. Oui.
C'est le modèle de ce que Chesterton appelait les idées chrétiennes devenues folles.
Et à repentir, il n'a pas eu le repentir.
Docteur Dehors.
Non.
Pas vraiment, non. Ça c'est le docteur Dehors, il croit que...
À la 17e chambre, et quand le débat était terminé, le président a demandé à Boudarel, mais vous ne regrettez pas ce qui s'est passé au camp 113? Il dit, je n'ai aucun regret.
C'est sa grande phrase, je ne regrette rien, c'est ce qu'il a toujours dit et qu'il continue à dire aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui ça, c'est même. Ça, c'est triste pour lui et pour sa destinée éternelle.
Ah, ouais.
Non, mais ce livre n'est pas un livre comme les autres sur le camp 113. Il y a beaucoup de livres qui ont paru sur le camp 113.
Oui, d'abord, il y a un livre qui s'appelle le camp 113.
Oui.
Et il y en a eu d'autres, mais ça, c'est un dossier.
Il y a eu une vingtaine de livres qui ont paru, écrits par des anciens du camp 113, des anciens prisonniers français. Mais ce dossier, ce livre, c'est le dossier Boudarel, c'est-à-dire qu'il dit comment Boudarel est passé en Indochine, comment il est passé de l'autre côté, comment il a trahi la France et comment il s'est battu contre l'armée française, comment il est devenu commissaire politique, etc., comment il est ensuite allé à Moscou, comment il est ensuite allé à Prague, et à Prague, il a continué à être le protégé du Parti communiste français, car ce livre démontre que Boudarel était un apparatchik et qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. Alors, évidemment, depuis, nous avons eu le livre noir du communisme, nous avons appris que le communisme avait semé sur sa route plusieurs millions de victimes. Mais ce que nous avons appris également, que des millions de dollars étaient partis de Moscou pour alimenter les caisses du Parti communiste. Et ça, nous pouvons l'avoir lu même dans les journaux de gauche. J'ai moi-même lu dans un hebdomadaire de gauche que le Parti communiste reconnaissait, après la publication des archives de Prague, des archives que Bartosek avait déniché dans le livre Les archives parlent, que il était devenu la créature privilégiée, protégée par le Parti communiste.
Il y a une question qui revient de la part de beaucoup d'auditeurs, donc je la pose, parce qu'elle m'intrigue aussi beaucoup. Comment explique-t-on que un personnage comme Boudarel, qui aurait dû représenter pour l'extrême droite fascisante, violente, extrémiste, le sommet de l'horreur, c'est-à-dire le personnage à tuer, vraiment. Comment explique-t-on que cet homme qui a été accusé de s'être livré à des exactions contre des soldats, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de donner la mort, comment explique-t-on que cet homme n'ait jamais été tout simplement flingué en pleine rue alors que son adresse était connue? Ça, c'est un mystère, parce que si vraiment ce qu'on nous dit de la droite des droites nationales françaises est vrai, c'est-à-dire si c'est constitué de fous furieux, nazis, fascistes, tireurs de balles, abatteurs de communistes, de noirs et d'arabes, et si l'armée est ce qu'elle est, c'est-à-dire ou ce qu'elle est, ce qu'on prétend qu'elle est, ou ce que prétend Osares par exemple, c'est-à-dire un ramassis d'assassins et de tortionnaires prêts à tuer n'importe quand, on est très étonné qu'un personnage comme Boudarel ait jamais été flingué. Surtout si on compare avec ce qui est arrivé, par exemple, au professeur Forisson, qui a été passé à tabac, ou à monsieur Bousquet, qui a été assassiné, ou qui, eux, n'étaient pas les ennemis des fascistes nazifiants, assassins, etc., mais les ennemis de la gauche bienveillante, aimable, sympathique, humanitaire et tendre. On peut s'étonner quand même de ce traitement. Comment expliquez-vous?
Je peux vous répondre.
Oui, ça m'intéresse beaucoup.
Parce
ça.
Que je connais beaucoup d'anciens prisonniers du camp 113. Je connais particulièrement Somanski, qui a porté plainte pour crime contre l'humanité, contre Boudarel. Et je peux même vous dire que si Boudarel est encore vivant, il le doit à un certain nombre d'anciens du camp 113 qui ont dit non, ne le tuez pas.
C'est des gens qui croient à la justice de leur pays, c'est ça, non?
Quand quelqu'un dit je fais confiance à la justice de mon pays, dites-vous que c'est un imbécile.
Oui, ben, on est d'accord, c'est bien ça, c'est bien ce que je voulais dire.
Il y a une des victimes qui a dit nous ne réclamons pas vengeance mais l'honneur de nos morts.
En fait, il voulait pas de vengeance, je crois.
Non, mais dans le dossier Boudarel, de bout en bout, il n'y a jamais eu de récupération politique, il n'y a jamais eu de désir de vengeance, il n'y a jamais eu de publicité maladive, et je peux vous dire que simplement les anciens du camp 113 ont réclamé la justice. Et s'ils ont porté plainte par l'intermédiaire de Somanski, et car Somanski est le premier qui a porté plainte avec l'ANAPI, l'Association des anciens prisonniers d'Indochine, c'est uniquement pour qu'on sache ce qui s'était passé là-bas.
Alors, enfin, il y a quand même quelque chose qui qui est tout à fait stupéfiant. Hein. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société où sans arrêt, on nous bassine avec le devoir de mémoire, avec la repentance obligatoire et tout ça. Bon, et là, on est dans un cas où vraiment le devoir de mémoire s'impose comme ailleurs, où quelqu'un pourrait faire repentance, ce serait vraiment la moindre des choses. Eh bien, pas du tout. On n'exige rien. Alors, qu'on ne le condamne pas parce qu'il y a eu amnistie, bon, je peux l'admettre, mais que même les gens qui ont été les victimes du système dont il était lui le complice n'agissent pas plus qu'ils n'ont agi, c'est-à-dire en faisant appel à une justice.
Par exemple, non seulement ils n'agissent pas, mais ils empêchent.
Voilà.
Que l'on se bout d'arrêt.
C'est un mystère insondable. Alors, est-ce que ça, quand je dis un mystère insondable,
peut-être qu'ils sont meilleurs que ceux qui ont poussé Boudarel à passer de l'autre côté.
C'est possible. Mais est-ce que vous ne croyez pas plutôt que réellement, c'est la preuve que Boudarel a réussi, parce que c'est la preuve que le formidable lavage de cerveau que ces gens-là ont subi pendant des mois et des mois dans les camps,
certainement pas,
dans les camps de la mort communiste, ont fini par détruire chez eux jusqu'à l'étincelle du sens de la justice humaine.
Certainement pas. Les anciens du camp 113 sont unanimes à dire qu'au camp 113 il y avait des choses abominables qui se passaient.
D'accord, mais alors, une fois qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils font?
Oui, mais alors, ils sont également unanimes à dire qu'il fallait que la justice se passe, et malheureusement, elle n'est pas passée. Pourquoi? Malheureusement, elle n'est pas passée. Pourquoi? Je vais vous le dire.
C'est un procès pour crime contre l'humanité.
Elle n'est pas passée parce que le gouvernement français s'est opposé à ce que le dossier Boudarel vienne, parce que si le dossier Boudarel était venu sur la place publique, eh bien c'était le procès de Nuremberg en l'envers, et on aurait vu que le Parti communiste, primo, avait toujours milité contre la France, ce que j'appelle la preuve par l'Indochine, car Boudarel est passé de l'autre côté sur ordre du Parti communiste. Il est allé ensuite à Moscou, il est allé ensuite à Prague, toujours sur ordre du Parti communiste, et il est rentré en France, toujours sur ordre du Parti communiste. Mais je n'en veux absolument pas Boudarel. D'ailleurs, ici, nous ne sommes pas là pour refaire le dossier Boudarel. Le livre a paru, nous sommes là pour examiner ce que l'on peut penser du livre.
C'est pour ça que moi, je ne parle pas tellement de Boudarel dans cette histoire. Boudarel, de toute façon, il va crever dans pas longtemps.
On peut
ni le souhaiter, ni pas le souhaiter, on s'en fout, ça va lui arriver, comme ça va nous arriver à tous. Donc après, il se débrouillera avec son créateur, c'est son problème. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi une affaire comme celle-là s'est passée comme elle s'est passée, alors que Papon est en prison, alors que Bousquet a été assassiné, alors que on réclame des comptes sans arrêt à la France, aux Français, à l'armée française, à la police française, à la gendarmerie française, à la justice française sur des affaires qui sont bien plus anciennes que l'affaire d'Indochine. Et pourquoi surtout? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, Daoudal, que l'affaire Boudarel commence en 91. Bon, en 91, c'est François Mitterrand qui est président de la République. Mais quelques temps après, il va se produire un événement considérable dans la vie de la France, c'est-à-dire qu'il va y avoir un président de la République de droite et un Premier ministre de droite avec un gouvernement de droite. Et donc, on pouvait s'attendre à ce que tous ces gens de droite se disent, c'est le moment où jamais, parce que si on comprend parfaitement que Mitterrand et son gang avaient de bonnes raisons de protéger le gang allié communiste au moment où ils étaient au pouvoir, on peut imaginer que Chirac et son gang voulaient au contraire flinguer le gang communiste.
Non,
et le
rassurez-vous, ils ne voulaient pas, et précisément le dossier Boudarel prouve que c'est le gouvernement français, ses magistrats, ses procureurs notamment, et ces législateurs qui ont voulu que le procès Boudarel ne vienne pas.
Oui, mais j'en reviens toujours à cette question.
Et tout ça, mais pourquoi? Parce que depuis la Libération, il y a une espèce de le politiquement correct est dominé par l'adoration du Parti communiste.
On ne fait pas de procès au communisme, on ne fait pas de procès à un communiste, c'est tout. Et ça, toute la classe politique officielle est d'accord là-dessus. Hein.
J'entends bien, c'est ce que je voulais vous faire répéter.
Oui, ben c'est ça.
Et re-répéter.
Oui.
Parce que.
Et
on ne peut pas faire
le bouquin
procès.
Le démontre. Hein.
Ce qui me paraît très important dans ce livre, c'est justement qu'il démontre que, quel que soit le vote, par exemple, que les Français vont poser, je dis bien poser, au mois de mai prochain. le résultat de ce vote, vous allez croire, on va vous faire croire que vous allez voter pour la gauche en votant Jospin ou pour la droite en votant Chirac. Si tant est que Chirac
et
Jospin, mais ça n'est pas vrai. Vous allez voter pour le moineau à deux têtes, comme disait mon invité de tout à l'heure, et vous allez voter pour un chef de gang ou un autre chef de gang dont les intérêts sont communs. Il s'agit de gérer l'ensemble
et qui tous
du
deux
territoire.
Veulent protéger le Parti communiste et tout ce qui est communiste chez nous.
Protéger l'autre gang.
Et Jospin, c'était depuis le début, puisque quand l'affaire Boudarel est arrivée à l'Assemblée nationale, puisque comme tout le monde en parlait en 91, c'est arrivé à l'Assemblée nationale, il a été défendu par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui s'appelait Lionel Jospin.
Alors, un auditeur, qui est probablement un militaire, voire même un soldat, me dit « Si Boudarel n'a pas été assassiné, sachez, Serge de Bekech, que c'est parce que les soldats ne font pas ce genre de boulot. » C'est bien ce que je leur reproche.
On peut leur reprocher, mais on peut constater aussi qu'ils ne l'ont pas fait.
On peut admirer.
Et un auditeur cite Shakespeare, ça me paraît une très bonne conclusion pour un livre d'Yves Daoudal, « La clémence est mortelle quand elle pardonne aux crimes. »
Exactement.
Merci Yves Daoudal. Vous voulez redire quelque chose que vous voudriez dire sur ce livre et que je ne vous ai pas demandé?
Ça je ne sais pas, mais dire en tout cas qu'il est édité chez Rémi Perrin.
Ah oui, pardon.
Chez Rémi Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris
2e. Non, mais c'est un livre qui vient à son heure, un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, et qui prouve, un, que le Parti communiste s'est toujours battu contre la France, non seulement Jacques Duclos a avoué avoué par écrit qu'il travaillait à la défaite certaine de l'armée française, mais en Indochine, en tout cas, le Parti communiste a fait tout ce qu'il pouvait pour faire échouer l'armée française. Il est vrai que sur le plan du terrain, la guerre classique, le Parti communiste vietnamien était appuyé par le Parti communiste chinois.
Alors, donc ça s'appelle Le dossier Boudarel, c'est de Yves Daoudal, c'est préfacé par Jean-Baptiste Biaggi et c'est publié aux éditions Rémi Perrin. Et en couverture, moi je crois beaucoup aux photographies, d'ailleurs je crois beaucoup aux visages, je crois que les visages parlent. Les visages parlent, comme disent les Indiens, bien entendu, ouais. Ça c'est clair. En couverture, il y a une photo de l'intéressé, et puis en page 5, il y a deux photos de l'intéressé. Boudarel en Indochine, à l'époque où il avait rejoint le Viet Minh, et Boudarel au début de l'affaire, alors qu'il était maître assistant à l'université de Paris 7. Et il y a une phrase qui dit, un dicton qui dit, à partir de 40 ans, on est responsable de sa gueule.
Oui.
Eh bien, j'invite les amateurs de dictons français à vérifier le bien fondé de ce dicton en regardant la page 5 du cahier d'illustration du dossier Boudarel d'Yves Daoudal, parce que vous allez voir ce que de quoi cet homme est responsable. Hein? C'est assez frappant, je dois dire. Regardez ma petite Victoria, vous qui avez
la passion des hommes. Si je disais, je serais grossière, alors pas.
Voilà. Merci à vous deux. Je suis content de voir Jean-Baptiste Biaggi dans une forme quasiment olympique. Ça, tout ça sans son maquis et son miel corse. Merci à tous les deux.
Merci
voilà ce que donne l'alliance de la Bretagne et de la Corse. Et c'est pour ça qu'on veut vous garder. Vous comprenez, il n'est pas du tout question, l'un comme l'autre, que vous alliez habiter dans
le pays. Nous ne sommes pas pour les accords Matignon.
Merci beaucoup. Docteur Dorn,
oui.
Je suppose. Je vais demander à Vinnie Wermeling, qui est à côté de vous, de s'asseoir à la place que va libérer Maître Biaggi, parce que comme ça, il aura un micro, il pourra s'exprimer librement selon la règle à Radio Courtoisie. Non, il n'a pas de micro. Vous avez un beau micro vert. Ça n'est pas une glace à la pistache. Hein, c'est un micro. Voilà.
Mais il y avait ce mot de Sartre terrible, un anticommuniste est un chien.
Est un chien, oui. Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, mais j'enlève le anti.
Non, c'est vrai. On est tenté de le faire.
Oui. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite, docteur?
Eh bien, comme d'habitude, parce que nous manifestons donc toujours au même endroit, à Paris, il y a dans d'autres endroits aussi. Maintenant, nous manifestons environ dans
un peu plus de 12 villes, grandes villes françaises. Et puis on a même commencé à manifester en banlieue. Ça, c'est pas nouveau, vous me direz. Oui, mais c'est un groupe qui est rattaché à notre groupe, à Maison Lafitte. Et mon Dieu, ça commence bien. Tous les deuxièmes samedis du mois, ils se réunissent devant la mairie. Ils ont choisi la mairie. Alors, bon, ça se passe très bien pour l'instant. Et on va donc dans, finalement, pas mal de villes. Là, le 24 novembre, ce sera à Paris, à 14h, au coin, toujours pareil, au coin de la rue du Château des Rentiers et de la rue Regnault, métro Porte d'Ivry, donc 14h. Ça dure 2h à peu près. Actuellement, il n'y a pas de gauchistes qui viennent. Mon Dieu. Et puis la police est présente. Non, même quand il faisait chaud. Enfin, pour l'instant, ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas tellement nous réchauffer, je dirais tout. Enfin, ils ne veulent pas nous souligner, en quelque sorte. Et alors, le même jour, à Nantes, devant l'hôpital Saint-Jacques, où je vous rappelle, il y a 2000 avortements par an. Il y a un service assez important là-bas. Il y a beaucoup de vacataires. À croire que l'avortement n'est difficilement fait par des titulaires, c'est pénible, évidemment.
Mais on a vu ça. Il y a plusieurs articles qui sont parus récemment et qui disent que de plus en plus de médecins refusent, depuis l'augmentation du délai, de pratiquer des interventions hors délai, enfin hors ancien délai. Il y a même un patron qui a dit qu'il avait été obligé de contraindre ses collaborateurs à travailler alors qu'ils ne le voulaient pas. On peut s'interroger sur les conditions légales de ce genre d'attitude.
On dit que j'ai dit aussi que la profession médicale est sinistrée, et c'est vrai. Je pense que c'est une pure vérité. Je pense que plus de 90% des gynécologues font les avortements ou les font faire. C'est-à-dire que les médecins tuent, ils se mettent à tuer, n'est-ce pas? Et on vous parlera de tuer à bon escient. Il faut tuer à bon escient.
Je pense
aux handicaps. Mais je défends mes collègues. Parce qu'ils sont en bout de chaîne. Au fond, en bout de chaîne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la femme et le médecin. Bon, alors il y a une pression terrible, madame, est-ce que vous allez garder un quatrième enfant? Vous n'y pensez pas, c'est ça, la pauvre. Alors elle est perdue, elle va faire ça, tout le monde le fait, ben je le fais, après tout c'est remboursé, tout va bien, c'est ça, enfin, tout va bien. Et puis les médecins, mais je trouve que beaucoup plus coupable, ça je l'ai dit souvent et je le pense évidemment, que ceux qui crient dans la rue le droit des femmes et tout ça, ceux qui sont assis à des bureaux, je pense au comité d'éthique, qui ne voit pas de convenant après tout à ce que la loi Veil perdure, n'est-ce pas, ou même les gens qui vont décider de la bioéthique, là, bientôt, n'est-ce pas, il faut laisser le champ libre à la recherche, n'est-ce pas, et alors, pour eux, ce sera un crève-cœur que la loi Veil, la loi qui permette l'avortement, n'est-ce pas. Donc, il y a une espèce de complot incroyable.
Est-ce que vous avez une idée de ce que rapporte un avortement?
Alors là, non, je dirais des bêtises. Enfin, je pense que le médecin se remplit les poches. L'autre jour, j'entendais le professeur Nathanson disait que ça, il avait lui-même fondé une clinique aux États-Unis, à New York, en faveur, enfin.
Nathanson, c'est l'auteur du cri.
C'est l'auteur du cri silencieux et de l'éclipse de la raison.
Et Vinny, tu voulais dire quelque chose? Approche-toi bien du micro parce qu'on ne t'entend pas du tout.
Je peux vous donner un exemple combien ça rapporte. Devant la gare de l'Est, nous avons pu parler à une fille qui nous demandait de l'argent pour avorter. Alors, c'était un peu bien tombé, n'est-ce pas? On l'a invité de discuter un peu dans le café et ça s'est passé comme ça. Et elle dit, oui, je suis rentré avec un visa touristique de un mois et ça fait 3 mois que je suis ici. Et puis je suis tombée enceinte et je veux avorter. Et j'étais à l'hôpital et ils m'ont dit on ne peut rien faire pour vous, vous n'avez pas de papier, vous êtes illégal, sauf vous payez cash. Et j'ai dit, et combien? Elle m'a dit 15 000 francs. Et j'ai dit, une naissance illégale comme ça, sous X, 12 000 francs. C'est déjà moins cher.
C'est moins cher.
On peut déjà commencer à discuter. Enfin, juste pour l'histoire, 15 000 francs dans la poche. Ouais. Hein? Alors, qu'est-ce que rapporte l'avortement?
15 000 francs, il y a 250 000 avortements par an en France.
Oui, 250 000, c'est beaucoup plus. Hein. Le chiffre officiel.
Il ne faut pas multiplier par 15 000 francs maintenant. Ouais. Ça, c'est illégal, carrément illégal. Hein.
Oui. Enfin, c'est quelque chose qui rapporte quand même, on peut dire. Voilà.
Vous savez, je pensais. On dit. Ça a été dit. Après tout, c'est la libération de la femme et l'avortement est un mal pour un bien. Eh bien, Des prêtres ont dit, ça je l'ai entendu, c'est le moindre mal. Ça a été dit même dans la chaire de Notre-Dame. Après tout, la loi Veil, c'est le moindre mal. Ce qui est d'ailleurs très loin de ce qu'avait dit le Christ quand il y a une petite brebis là qui s'égare et qui est dangereusement à la limite de faire les bêtises. Et là, le Christ abandonne le troupeau. Ça. Donc je dirais, c'est affreux d'employer le mot moindre mal pour un prêtre. Moi, ce que je crois, c'est que l'avortement, ce n'est pas un mal. Enfin, c'est un mal, mais c'est un mal pour le mal. Pour la bonne raison qu'elle est sous-tendue par l'idéologie. Et l'idéologie, c'est tout simplement l'homme qui décide à la place de Dieu. Et, enfin, on l'a souvent dit. Et finalement, il court tout droit à la damnation. C'est-à-dire que c'est un... Il n'y a pas pire, c'est un acte révolutionnaire qui conduit tout droit à l'enfer. Attention, si on ne se reprend pas, si on se reprend, bien sûr, Dieu nous... quand le repentir est réel, Dieu pardonne tout. Super nivem de albe, ne seront plus blancs que neige, bien entendu. Vous savez, il y a cette phrase que j'ai eu la joie, l'honneur, l'intérêt de préfacer un livre écrit par une Italienne. Je sais pas si, je crois qu'on en a parlé ici, je ne sais plus.
Oui, oui, oui.
Et alors, elle avait fait, c'était horrible, elle avait fait cet avortement. À tel point que son mari avait, son mari c'était en 1914-15, il était monté au front, il était italien, donc il est montré contre l'Autriche, et il revenait de temps en temps au foyer, et puis il pensait que sa femme était enceinte, puis elle n'était plus, enfin, il avait dit un jour à sa femme, si j'apprenais qu'un jour, ma femme était l'assassin de mes enfants, je serais l'assassin de ma femme. Et donc cette femme écrit ses mémoires et elle demande à ce que ce ne soit pas que les noms exacts ne soient pas transmis. Et c'est un prêtre qui reçoit son testament, et le testament doit être publié 10 ans après. Et le prêtre a la délicatesse d'ailleurs et la pensée de désigner un héritier, mm-hmm. Au cas où lui-même serait décédé. C'est donc dire, je dirais, l'honnêteté, et la précaution, l'intégrité de ce prêtre. Et donc, vous connaissez l'histoire sans doute, je n'insiste pas.
Non, mais racontez-la.
C'était d'ailleurs très émouvant parce que, c'est la guerre, c'est le fascisme, il est mis en prison, je ne sais pas exactement pour quelle raison, il est relégué. Et alors, il y a des petites voix qui, à minuit ou dans la nuit, se lève autour de cette femme qui dit, maman, maman, pourquoi tu nous as tués? Alors elle est très impressionnée, et elle dit pourtant dans son livre qu'elle a toujours gardé la tête froide. Alors elle met la tête sous les couvertures, elle n'entend pas, elle ne veut pas écouter, etc. Et finalement, les petites voix se répètent, mais assez souvent, la pauvre, elle commence à perdre un peu la tête, c'est ce qu'elle dit. Et puis un beau jour, ces petites voix lui annoncent que papa est mort. Papa est mort, aujourd'hui. Et le lendemain, elle apprend par les voisins que son mari est mort. Alors poussée à l'extrême, n'est-ce pas, elle va à la chapelle Sainte Rita, je ne sais pas si c'est la véritable chapelle, la chapelle de tous les secours, et là il y a un chapelain, et elle dit tout fort, je ne sais plus si elle le dit sans faire exprès même, elle dit « mes péchés sont trop grands pour être pardonnés ». Comment dit le chapelain? Alors ça c'est le sommet du livre. Comment dit le chapelain? Vous doutez de la miséricorde de Dieu, ce que vous avez fait jusqu'à présent est plus grave, ce que vous dites maintenant est plus grave que ce que vous avez fait auparavant. Alors, mettez-vous à genoux. Elle se met à genoux. Évidemment, elle est libérée de tout ça. Mais, enfin, voilà. Et alors ils veulent, et alors le diable est très présent dans ce livre. Il y a un personnage très présent qu'on voit dans la coulisse tout le temps. D'ailleurs, il jette la femme hors de son lit, alors qu'elle s'est déjà confessée il y a fort longtemps, n'est-ce pas? Mais là, elle est vieille, et elle est reprise par Satan qui est furieux de voir que sa proie lui échappe. Et alors elle tombe de son lit, c'est enfin des choses incroyables.
Comment s'appelle ce livre?
J'ai tué mes 7 enfants, je crois. Mais j'ai vu beaucoup mieux le titre italien. Maman, pourquoi tu nous as tués? Enfin voilà.
Mais... Donc, on vous retrouve.
Oui, alors ce que je voudrais dire. Il y a une chose que je voudrais dire. J'ai été au pèlerinage de Paris à Chartres, et j'avoue que comme chaque fois, je suis ébloui par le sérieux, par la gentillesse, l'élévation, remarquable. J'avoue, je suis toute cette jeunesse qui court vers qui court à Chartres, vraiment, on peut être qu'ébloui, c'est d'une grande beauté, il y a des bannières, tout est tellement élevé, tellement beau, on ne peut pas ne pas être pris. Et j'avoue que maintenant j'y vais assez souvent, ils me connaissent plus ou moins, et je suis très bien reçu. Ah oui, docteur, bien sûr. Et c'était pour le Pentecôte. Et peut-être j'ai déjà dit, je me répète très souvent. Et ça, je regrette d'ailleurs de me répéter comme ça.
Tout à fait, quand c'est bon, on se plaint pas qu'il y
en a. Enfin bon. Et alors, j'avais moi-même donné des tracts au train qui partait de Chartres pour Paris. Et là, je suis tranquille. Ils vont tous à Paris, ils vont tous à Chartres. Dans 15 jours, ou 10 jours, je ne sais plus, ils seront là. Et ils n'étaient pas plus nombreux qu'avant. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ils étaient tous d'accord, enfin tous, beaucoup, et fervents, et venant d'un pèlerinage pareil. Alors j'avoue, et je ne sais pas, mais je ne comprends pas. C'est l'élite, mais pourquoi ils ne s'engagent pas? Alors est-ce que c'est encore l'élite? C'est la question que je me pose. Alors, non pas que nous fassions, des miracles, bien entendu. Il y a peut-être d'autres façons de faire, je suis persuadé. Mais je crois que prier dans la rue pour nos petits, un peu comme, je dirais, le faisait la Sainte Vierge, enfin, c'est pas la Sainte Vierge, bien sûr, ni même Saint Jean, mais nous faisons ce que nous pouvons, nous sommes impuissants, mais nous sommes là. Eh bien, pourquoi ne pas venir? C'est ça que je crois. Surtout après avoir dit que oui, naturellement, etc. Alors, on reçoit beaucoup de félicitations, et j'en suis très content. Moi, finalement, les compliments, j'aime bien. Mais je trouve que quand il n'y a pas de suite, alors là, je suis encore plus triste. Et c'est la raison pour laquelle je sais bien que quand les gauchistes sont là, c'est plus attirant. Parce que, mon Dieu, il y a un peu de tirage. Mais je dirais, puisqu'ils croient à la prière, qu'ils viennent. Le lieu est choisi, c'est un lieu de prédilection. Alors, je dis ça aux Parisiens, aux Versaillais, bien entendu. D'ailleurs, on va bientôt retourner à Versailles. Mais on va dans plusieurs villes. Alors, je dirais chacun, parce que les prélages aussi, ils venaient un peu de toutes les villes de France. Ah oui, il faut que je vous dise aussi qu'on va en Suisse, que ça marche bien, que hier, il y avait une manifestation à Lausanne, devant l'hôpital de Lausanne, par des amis suisses. Nous sommes très contents. Et on y retourne, à Fribourg, pour parler aussi un peu de la famille et de l'avortement.
C'est ce que Libération appellera l'international des commandos anti-avortement.
Les commandos.
Franchement,
Ben Laden, est-ce que voilà. Ben Laden, enfin bon.
Le nouveau Ben Laden, c'est le docteur Dor.
Le Ben Laden, je dirais, avec, mais c'est très curieux. Je pense qu'il y a des terroristes, n'est-ce pas, le terrorisme de l'athéisme est pire que le terrorisme de l'islamisme. Je pense que l'islam est violent, et qu'il y a des gens modérés. Mais l'islam est violent, ça, il y a la djihad dedans. Bon. Mais l'athéisme est encore beaucoup plus violent et beaucoup plus sanglant, puisqu'il y a 1 milliard de morts. Hein, et ceci en 97, et c'est un chiffre certainement inférieur à la réalité. L'athéisme a tué 97, c'était le bilan, et elle a tué 1 milliard d'enfants. Et ça continue de plus belle, bien entendu, avec la loi Aubry, tout ça, les portes sont grandes ouvertes maintenant. On est en pleine folie. Le terrorisme est permanent. Et le pire, c'est nous-mêmes qui le faisons.
Donc si on veut se mobiliser à vos côtés, la prochaine fois, c'est...
Alors, je répète la chose.
Répétez-le.
Venez, vous n'aurez pas d'excuses, voyez. Alors, bien entendu, il y a la miséricorde pour tous. Mais, encore une fois, je ne comprends pas l'abstention. Là aussi, ce sera jugé, n'est-ce pas? Bon, à tout péché, miséricorde, bien sûr. Mais on ne peut pas rester indifférent. Les petits qui meurent en rang serré, n'est-ce pas, encore une fois, la petite brebis qui s'égare, n'est-ce pas, et ne pas avoir d'œil pour elle, ou tout au moins une petite prière. Enfin bon, si vous ne pouvez pas venir prier pour ceux qui prient là-bas, enfin bon, voilà. Alors oui, c'est le 24 novembre, samedi à 14h, aussi bien à Nantes, à Lille ce sera aussi, à Lille ce sera le 1er décembre, et puis à Aix ça marche très bien, ils sont 31 maintenant, vous me direz c'est modeste, oui mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup.
Et à Paris c'est
à Paris, donc c'est le 24 novembre à 14h, le samedi, de 14h à 16h en gros, de 14h à 16h le samedi 24 novembre, rue du Château des Rentiers, rue Regnault, métro Porte d'Ivry. La rue Regnault est petite, la rue du Château des Rentiers est très longue, elle est nord-sud, la rue Regnault est est-ouest, voyez, vous ne pouvez pas ne pas venir, vous êtes parfaitement informé.
Merci docteur Dor.
Merci.
Vinnie Vermeling, alors toi tu as une autre association qui oui. S'aide, qui va dans le même sens, mais d'une façon différente. Ça s'appelle
oui, SOS
Futur
Maman.
SOS Maman, pardon.
Voilà. SOS Tout Petit, non voilà. Et maintenant SOS Maman. Oui, mais d'abord, j'aimerais faire un hommage au docteur Dor.
On va le couvrir.
Si, si, si.
Le compliment.
Parce que là, en Allemagne, vous savez bien que je suis allemand. Chez nous, on commence à faire maintenant ce que le docteur Dor a commencé il y a 13 ans.
15 ans.
15 ans. C'est-à-dire maintenant, nous avons en Allemagne, 40, 40, dans 15 oui. villes, chaque mois, une action comme ici, devant le Jeanne d'Arc. Et c'est un peu Monseigneur Reilly qui a finalement réussi. C'est un évêque américain. Mais quand même, niveau évêque, et ça impressionne les Allemands, qui a un peu mobilisé quand même certaines paroisses, et je vais donner la liste d'ailleurs dans les nouvelles, de ces 15 villes. J'en suis très fier parce que vraiment, en Allemagne, on n'a rien fait. Encore il y a un an, il n'y avait strictement rien. Et alors je leur ai parlé de Dr. Dor. Ils ont dit, ben nous, on n'a pas un Dr. Dor. On n'a pas ce prophète qui est toujours là, debout, c'est un meurtre, et qui rappelle. Et je crois, Dr. Dor, c'est un cheminement. Les gens, ils ont besoin du temps pour comprendre. Ils sont pas nécessairement mauvais. Ils sont pas nécessairement lâches. Non, mais vous l'avez pas dit. Mais vous êtes étonné.
Au contraire.
Mais moi, je vois que ça. Des gens qui cheminent. Mais ça vient quand même.
C'est vrai.
Ça vient. Et en France, bon, maintenant vous m'avez dit 12 à 15 villes, c'est pareil, donc on commence à se mobiliser. En Suisse, ils font, en Autriche, un très fort mouvement aussi, et carrément dans la capitale, à Vienne, avec des marches pour la vie. Enfin, on sent un peu partout, comme c'était déjà en Amérique aussi depuis un certain temps, un réveil des catholiques devant ce cauchemar qui est l'avortement. Alors nous, SOS Maman, on s'occupe donc un peu des mamans, parce que les bébés, c'est dans les mamans. Et ceux qu'on veut aider, il faut s'adresser à la maman. Et croyez-moi, au début, c'était il y a 7 ans, on voulait faire quelque chose de concret. Parce qu'une maman nous a dit, c'est bien moi. Marrant, vous prêchez comme ça contre l'avortement, mais est-ce que vous connaissez une seule maman qui est dans la situation de devoir avorter ou se sentir obligée d'avorter? On n'a rien dit, on est rentré en nous, une réunion, et on a dit, cette femme-là, elle a raison. Si l'on a le droit de dire quelque chose, c'est parce qu'on fait quelque chose de concret. Et on a réfléchi. Et une jeune fille chez nous, elle a dit, moi je pense, il faut simplement proposer de l'argent, et vous allez voir, ça résoudra 99% des problèmes, et les mamans vont consentir à accueillir leur bébé. Eh bien, je vous donne là le résultat. Après 6 ans de travail, 22 mamans, dont 2 ont avorté et 20 ont gardé leur enfant.
Est-ce qu'on peut dire que vous...
Oui.
Ça va paraître violent, oui. Je veux dire. Mais est-ce qu'on peut dire que vous achetez les bébés?
Non, ça, tu me l'as déjà demandé une fois.
Oui, mais
non, on ne peut vraiment pas dire ça. Mais c'est...
Vous achetez
c'est quoi,
bébés en poche.
Alors, comment ça se passe? Nous-mêmes, on ne trouve pas ces mamans. C'est ça le gros problème. Déjà, comment trouver les mamans? Vous savez que les jeunes filles de 17 ans, elles avortent aujourd'hui au lycée et les mamans ne le savent plus. Et ça, c'est légal. Et même de 12 ans, ils ont le préservatif. Enfin, ça commence là. Et elles n'ont plus l'obligation de parler aux parents. Il n'y a plus l'autorité parentale nécessaire pour un avortement. Donc, c'est très difficile déjà de savoir quelqu'un qui veut avorter. Une jeune fille, une jeune dame ou une dame immigrée, n'importe. Comment voulez-vous le savoir? C'est très intime à la femme. Peut-être la meilleure copine, elle le sait, mais elle fait cette décision entre 2-3 personnes. Et si ces 2-3 personnes sont toutes négatives, comme c'est le cas pour la plupart des cas, et surtout les hommes, et j'en ai gros sur la patate contre les hommes dans toute cette affaire, de tout ce travail-là, à commencer par les juges, mais jusqu'aux législateurs, jusqu'aux avocats, et après les médecins, et après les maris.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est un très bon argument, parce que souvent, quand on parle de ces questions avec le docteur Dor, il y a des messages d'auditrices qui nous disent, mais de quoi vous vous mêlez? Vous êtes tous des hommes autour de cette table, vous parlez de quelque chose qui ne vous concerne pas au premier chef, qui est l'avortement. Pourquoi ce n'est pas des femmes qui s'expriment? Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ceux qui parlent en faveur de l'avortement, c'est aussi beaucoup, beaucoup des hommes, comme tu le dis. C'est effectivement les députés qui ont voté pour l'avortement. Ce n'est pas des femmes, ce n'est pas parce qu'on a utilisé l'épouvantail Veil pour lancer l'opération que dans la réalité, c'est des femmes qui ont décidé. Et c'est bien des hommes qui ont voté la légalisation de l'avortement. Ouais. Et la plupart des médecins qui pratiquent l'avortement sont des hommes. Et la plupart, enfin tout le système, c'est un système d'hommes, c'est vrai. Et je ne vois pas donc pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de s'exprimer aussi.
Serge, là, j'ai 15 photos des 15 enfants qui sont nés.
Ouais.
Je connais 2 pères. Ouais. 2. Volatiliser tout ça. Alors la pauvre jeune femme, la pauvre jeune fille, elle reste tout seule avec le, en guillemets, problème.
Vraiment, sincèrement, est-ce que parmi les 20 jeunes femmes qui ont décidé, grâce à, enfin sur l'intervention de votre association, sur les 20 jeunes femmes qui ont décidé de ne pas avorter, est-ce qu'il y en a qui sont venus vous voir en disant bah, finalement j'ai eu cet enfant, mais si j'avais su, je l'aurais pas eu.
Ah non, jamais, jamais. Non, vous voulez dire après coup, quand elle a accouché. Oui. Ah, jamais. Je redoute qu'un jour, il y aurait quand même une petite histoire comme ça. Imaginez un enfant handicapé, mal formé. On n'a pas encore eu un seul cas comme ça. Mais vous savez que ça devient très difficile dans ce pays. Hein. Même les docteurs se font traîner en justice parce que soi-disant, on n'a pas découvert qu'il y avait une malformation. Mmh. Et donc, la maman n'avait pas la chance, n'est-ce pas, en guillemets, d'avorter. Il y a maintenant deux cas comme ça. Mmh. Alors, même notre travail, un jour, on va se trouver en grosse difficulté. Vous avez encore cette femme, c'est un enfant handicapé, etc., etc. Hein? Mais on s'en fout. Hein? On s'intéresse à la vie.
Alors, mais comment vous trouvez l'argent? Voilà. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, ça.
D'abord, comment trouver les mamans? Après, je t'explique.
Oui, alors les mamans.
Les mamans, c'est pas moi qui les trouve. C'est pas nous qui les trouve. C'est nos mamans que nous avons sauvées qui nous trouvent la suite. Et c'est invraisemblable.
C'est une très jolie chose.
Comme elles ont l'oreille et les yeux pour le malheur de ce côté-là. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans les cafés. Ça se trouve sur les trottoirs de Paris. Ça se trouve dans le métro. Avec les yeux, avec le cœur. Et par exemple, j'ai une que vous m'avez d'ailleurs amenée au début, Dominique, de Martinique, noire. Elle m'a amené trois autres femmes noires dont on a sauvé l'enfant. Mais le travail était fait. Elle avait déjà convaincu. Elle a dit, mais je connais une bande, ils sont formidables, ils nous aident. Ils nous aident même financièrement, etc. Le travail était pratiquement fait quand on nous rend... Et comme ça, pratiquement toutes les femmes qu'on a sauvées, chacune, par exemple Isabelle, elle en a amené 9. Une seule. Alors Isabelle, c'était un cas vraiment grave. Elle était droguée, elle était dans un hôtel, vivait avec un type, elle n'avait pas de travail, chômeuse, malade, et elle avait un enfant dans la nature placé social, service social. Vous voyez, c'était le départ. Et à partir de là, aujourd'hui, ça fait 6 ans de travail, elle est sortie de là, elle ne se drogue plus, elle a un appartement, elle a trouvé finalement un travail, magnifique travail, elle est standardiste, une grande association humanitaire, et c'est elle qui nous a trouvé 9 autres mamans. Et chaque fois, je tombe vraiment par terre, je ne sais pas comment elle fait. Là, elle est revenue, elle a dit, j'ai trouvé des jeunes filles jumelles, on dit jumelles, non? Ah oui. Je dis, mais jumelles, tous les deux enceintes? Oui, toutes les deux enceintes. Le même jour? Oui, le même jour. Je dis, mais dis donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils sont tombés sur 2 frères, ils ont dit. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Bon, alors, maintenant, regardez la suite. Alors, elle dit, bon, j'aimerais vous revoir. Oui, mais nous, on veut pas trop, etc. Bon, ici, dans le café. 2 jours plus tard, elle les revoit dans le café. Ah oui, vous avez dit, vous pouvez peut-être aider. Ça pourrait nous intéresser, mais maintenant, c'est pas encore bien, parce que les deux gars, ils veulent nous payer 1200 francs chacun pour avorter. Et Isabelle leur dit, vous prenez les 2500 francs et avec ça, vous payez le premier mois d'avance pour louer ensemble un studio. Ce qu'ils ont fait, ça s'est passé il y a 1 mois. Vous voyez, c'est absolument frais, ça, cette histoire des jumelles. Mais il y a une autre histoire, c'était le 4e dernier enfant, une fille de 13 ans, portugaise, dans les rues de Paris, enceinte. Et là, on l'a trouvée vraiment sur le trottoir, en causant avec une autre fille, on l'a surentendue, par hasard, en sortant un chien. Vous voyez? C'est comme ça qu'on trouve, non? Et alors elle dit, je suis cherchée par la police, parce que maman, elle veut qu'on avorte, que j'avorte, et je vais d'ami en ami, etc. Et j'ai dit, mais ça c'est, écoute, on va t'aider, on va se sortir de là. Aujourd'hui, elle est, d'abord, on l'a envoyée au Portugal chez une sœur qui n'était pas contre, et du Portugal, elle est partie au Brésil. Toujours payée par nous, hein, ben, avec le billet d'avion, où elle est chez une partie de sa famille, où les naissances, comme ça, à 13 ans, 14 ans, sont pas une rareté, donc c'est moins extraordinaire. Après, elle va rentrer avec son bébé et va réintégrer l'école. Vous voyez, ça c'est une fille de 13 ans, médicalement aucun problème. Docteur Perel qui nous conseille dans ces cas-là, il a dit il y a aucun problème. Il m'a même dit, je te rappelle que la Vierge Marie a eu un enfant à 12 ans.
Ça discute, 12, 14.
Oui, ça se discute peut-être un peu. Mais vous voyez, c'est pas... Bon, le monde a... Alors, comment on a l'argent? L'argent, bon, tout au début, on avait cette idée, le moyen, c'est l'argent. Comme ça, on va pas, en moralisant, on va pas dire ceci, cela, faut pas avorter. Bon, les gens, ils savent très bien qu'il faut pas avorter. Vous savez, c'est pas comme ça qu'il faut d'abord les aider. Voilà. Et là-dessus, on a dit, on va prendre conseil. Madame Poulot, femme et enfant d'abord, nous a dit, ah bon, une aigle, vous voulez commencer sur les chemins de la vie, vous allez voir, l'argent vous manquera pas, mais la foi. Et aujourd'hui, je comprends ça, parce que nous sommes dans une tour d'ivoire, nous voyons pas la misère autour de nous. Il y a 250 000 avortements autour de nous, personne ne sait qui. Personne ne voit une fille, une femme qui a ce problème-là. Donc, c'est ces femmes qui cherchent. Alors, je mobilisais un peu l'UNEC, et sur les 600 qu'on est à l'UNEC, il y en a maintenant 40 qui font un virement automatique tous les mois de 200 francs ou 100 francs, selon le cas. Et ça nous fait une petite caisse de 7, 8 000 francs par mois. Avec ça, on peut suivre les 5, 6 cas en cours.
Donc, si on veut vous aider, on peut faire ça. Alors, je suis obligé d'en finir parce qu'on a encore des choses à dire. Enfin, des annonces à faire. Donc, on peut faire, par exemple, un prélèvement de 100 ou 200 francs par mois au profit de l'UNEC.
Oui, SOS Maman. SOS Maman, UNEC, oui.
UNEC. Oui. Alors, une adresse?
Oui, boîte postale 114. Alors, UNEC, boîte postale 114, 95 210 Saint-Gratien.
Merci, Vinny Vermeling. Merci docteur Dor.
Merci.
Les annonces.
Qu'est-ce que c'est comme UN quoi?
UNEC, UNEC.
Alors, l'exposition d'Iris Mire, peintre et sculpteur, aura lieu à l'Éclat de Verre, place du Marché à Versailles, ouverture du 15 au 27 novembre de 11 à 19 heures, même le dimanche. Renseignements au 01 39 69 95 32. Yves Daoudal dédicacera le dossier Boudarel le 16 novembre à la librairie Guettier, 66 avenue Théophile Gautier, à partir de 15h, et le 17 novembre à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, à partir de 15h. Dédicaceront également leurs ouvrages Jean-Luc Chérier et Huguette Pérol. Les journées d'amitié de la paroisse Sainte-Eugène-Sainte-Cécile auront lieu le samedi 17 novembre de 14 à 18h30 et le dimanche 18 novembre de 11 à 18h au Centre Bergère, 9 rue Bergère dans le 9e, métro Bonne Nouvelle. Vous trouverez de nombreux comptoirs, un salon de thé et un atelier pour enfants est prévu de 14 à 17h le dimanche et le samedi. Je rappelle que le samedi 17 novembre, François-Marie Algout dédicacera tous ses ouvrages en la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, Paris 7e, de 14h30 à 18h, et notamment France, notre seule patrie. Un colloque subsidiariste aura lieu le samedi 17 novembre, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, de 9h45 à 18h, sur le thème « Quelle structure fédérale pour la France ?» Samedi 17 novembre, toujours, à partir de 15h30, conférence de Madame Verde Leroux, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un remarquable ouvrage sur les Français d'Algérie, de 1830 à 1962. Cette conférence aura lieu, salle du musée social, 5 rue Lascazes, Paris 7e, participation aux frais, 40 francs. À l'issue de cette conférence, l'auteur dédicacera son ouvrage le vendredi 23 novembre de 9h à 18h à l'espace Montcassin, 164 rue de Javel, Paris 15e, marché de Noël de producteurs, les confitures du soleil, produits de Provence, préparés par Sophie Argouache, et la ferme de Capdeville, produits du sud-ouest, de monsieur et madame Arnaud Jaïr, frère de monsieur l'abbé Jaïr, de la fraternité du Christ roi, actuellement à Port-Marly.
Une belle sœur de curé et un frère de curé. Il faut aller acheter des confitures et des gourmandises là-bas.
Le 22 novembre, sur le thème « Remettons de l'ordre en France », salle Wagram, 39 avenue de Wagram, métro Terne, premier meeting de campagne avec Bruno Maigret, à 20h. À partir de 19h, ouverture des portes pour une dégustation de Beaujolais nouveau. Entrée 50 francs, 30 francs pour les étudiants, renseignements 01 53 85 68 37. Le Juliette Mills, c'est le 23 novembre à 20h45 au Théâtre de la Madeleine à Troyes. Renseignements, on vous dira plus tard. Téléphonez. Alors, quatrième débat, dîner-débat de Radio Silence, le mercredi 28 novembre à 20h, avec Monsieur l'abbé Guillaume de Tintanouarne sur le virus toujours actif de la gnose, au restaurant Vartan, 33 rue de Bièvre, Paris 5e, 140 francs par personne. Et puis, dernier, la kermesse de la chapelle Sainte-Geneviève aura lieu à la salle Vagram, 5 rue de Montenotte, Paris 17e, métro Étoile, le samedi 1er décembre de 10h30 à 19h et le dimanche 2 de 10h à 18h.
Pour le dîner-débat du père de Tanoirne, il faut s'adresser à la voix du silence, 5 rue du Frénois, 75-116 Paris.
Et puis, il y en a une autre, mais on l'annoncera la prochaine fois parce que c'est au mois de décembre. Ici, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 novembre de 18 à 21h, en différé jeudi 15 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck.